Ce podcast a été enregistré dans les locaux de la Forge Ludique à Lille le vendredi 10 mai. Ce podcast Forge FM a pour but de présenter les sorties ludiques et de parler de jeux en général. Lors de cette session, nous avons présenté le jeu de plateau U-Boat, ainsi que les sorties figurines pour les jeux Infinity, Batman Miniature Game et Games Workshop en général. Nous avons ensuite discuté autour des jeux et des diverses traductions de Games Workshop, pour finir par une discussion autour de la peinture et notamment l'utilisation de la roue chromatique. Cette présentation peinture a été effectuée par Eric Underscore, un des membres de la Forge Ludique. C'est un premier podcast, soyez indulgents. Bonne écoute sur Forge FM.
Forge FM. Allez, salut et bienvenue sur Forge FM.
Forge FM.
Première séance de cooking painting.
Bonsoir.
Alors le concept, c'est qu'on est dans une cuisine, on est dans un club de figurines et de jeux de plateau, et chacun vient avec son petit projet, monte ses figurines, peint ses figurines, et en même temps on parle de figurines et de jeux de plateau. Donc, on va faire un petit tour de table en partant par là. Donc tu vas te présenter, vas-y mon grand.
Bonsoir, moi c'est Dru, j'ai 21 ans et puis je suis à la Forge depuis quelques mois.
Et alors c'est quoi les jeux que tu fais ?
Alors principalement du 40K parce que c'est ce que je faisais quand j'étais collège-lycée, mais j'ai découvert pas mal de jeux ici à la Forge. J'ai aussi fait du Confront, du AT43. Et puis ici à la Forge j'ai vite fait découvert... Alors, du Necro, de l'Infinity, il va falloir que je m'intéresse un peu plus, parce que ça va, je m'intéresse. Bref, pas mal de petits jeux d'escarmouche, ce qui est vraiment l'esprit de la Forge, apparemment. Et derrière, beaucoup de jeux de plateau, en veux-tu, en voilà.
Ok, ensuite on a
Vulcan. Alors moi, joueur Infinity en priorité maintenant, après je suis un peu touche à tout, mais j'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur sur Infinity ces derniers temps. Et pour ce soir, bah, du coup l'objectif c'est d'arriver à faire monter ma compo que je vais jouer chez nos amis belges à Gand en tournoi demain. Donc le but c'est que ce soit le plus joli possible.
Ok.
En plus.
Ensuite, juste en face de moi, on a...
Guillaume.
Vas-y, alors dis-nous, présente-toi.
Bah écoute, moi je suis plutôt un peintre qu'un joueur, donc j'essaie de jouer à Hatchet Spire quand je...
Hatchet Spire.
Ok, à la fois, ouais, voilà. Mais ouais, j'aime bien jouer, mais je ne joue pas beaucoup.
T'es plutôt peintre, du coup.
On va dire ça.
Et t'es un gros peintre avec des produits spécifiques, et t'es un spécialiste de l'aéro, quoi.
On va dire que je fais quand même 58 kilos, donc on va pas me caractériser de gros, mais on va dire que j'aime bien peindre.
Ok.
Ouais, mais t'es très lourd quand même, donc gros ça passe, non ?
Ah bah lourd dans ce sens-là, ça marche bien, effectivement je te rejoins.
Ouais, moi aussi je suis lourd.
Ouais, tu t'appelles Guillaume, non ?
Hein ?
Tu t'appelles Guillaume aussi.
Ouais, bon, allez. C'est ça.
On passe à la personne suivante.
Ouais, Eric, moi je suis aussi plutôt peintre.
Non mais carrément, fais pas ton modeste.
Je joue à très peu de jeux, j'essaie de jouer à des jeux à la Forge où il n'y a pas besoin de beaucoup de figurines, parce que je passe beaucoup de temps à peindre, que je suis incapable de monter une armée avec une bibelin. Voilà, et j'ai pas d'objectif ce soir, j'ai juste pris une figurine pour avoir plaisir d'être avec vous ce soir.
Ok.
C'est-à-dire partager.
Et on va pas terminer avec toi parce que je me suis pas présenté, mais vas-y.
Amos, membre depuis peu de la Forge. Je joue à 40K que j'ai repris donc récemment. Et je suis assez intéressé par pas mal d'autres jeux. Petite phrase grave. C'est le jeu qui me plairait bien, qui m'intéresserait bien, et voilà.
Ok.
Très rapidement.
Super. Du coup, Dim. Qui est au micro. Donc moi, joueur de 40K à la Forge, mais bon, j'ai pas fait que ça. Gros joueur de AT43 en son temps. J'ai fait du Frostgrave, j'ai fait du Guild Ball, j'ai fait du Blood Ball. J'ai fait du Infinity, j'ai fait du Firestorm Armada...
Et du POV.
Et du
POV.
Du POV.
Mais non, t'as aussi vu du Point of View. Bolt Action.
Ouais, du Bolt. Ah oui, du Bolt. Tu sais, j'ai compris du POV.
Ah, j'ai vraiment dit du POV.
Ah oui, voilà, c'est ça. Non, du Bolt Action. Ouais, j'étais un très très gros joueur de Bolt Action pendant un moment avec.
Qu'est-ce qui s'est passé?
On va pas revenir là-dessus. On va laisser ça dans les oubliettes. Et donc voilà, donc je me suis dit que le podcast, ça serait une bonne idée pour les gens qui peignent chez eux ou qui montent des figurines chez eux. Et qui, moi, c'est ce que je fais régulièrement quand je peins mes figurines. Je me mets des petits podcasts, alors pas forcément de figurines, mais je me dis que d'autres personnes, ça pourrait intéresser d'écouter des trucs pendant qu'ils peignent, quoi. Et on va terminer avec la dernière personne qui vient d'en faire une entrée complètement théâtrale, notre cher président du Groland. Non, de la Forge.
Ah non, celui du
Groland. Donc, vas-y, présente-toi.
Moi, je suis Greg Le God. Je suis l'initiateur du projet de la Forge ludique et son président actuel. Ça va peut-être changer, mais pour l'instant, je suis président. Et puis, j'ai 40.
Arrête de te faire du mal.
Ouais, ça m'était 50 balais, quoi. Je suis un joueur depuis quelques décennies. J'ai commencé j'ai 14 ans. Je suis un gros acheteur compulsif de figurines. Je suis plutôt catégorisé dans la catégorie des peintres d'armée. Hein, on va dire ça comme ça. Je peins pas hyper bien, mais je peins avec une bonne cadence.
Tu fais le modeste.
Et j'ai surtout l'envie de jouer à tout. En fait, la maladie, c'est surtout ça. Et donc, du coup, comme je n'aime que jouer full peint, je peins énormément. Donc, je consacre énormément de temps à la figurine. Je croque aussi régulièrement du gros jeu de plateau. J'ai tendance à délaisser les jeux familiaux sur lesquels j'ai pas vraiment de défi. Je prends pas mon pied là-dessus. Sinon, si autour de la table, c'est un public vraiment néophyte. Là, en effet, je peux me lâcher. Voilà, donc vraiment un joueur tout azimut. Voilà.
Ok. Donc, on va commencer avec les présentations des sorties plutôt ludiques du mois. Enfin, j'ai fait le tour d'internet, en gros, j'ai regardé ce qui était sorti, et j'ai regardé aussi, je voulais parler de ce à quoi j'ai joué dernièrement. Je vais commencer, même si on a plutôt des joueurs de figurines, par les jeux de plateau, avec la sortie de U-Boat, qui était au départ un Kickstarter, c'est ça?
Ouais, tout à fait.
Et qui est sorti, on a testé avec Greg du coup à Ludibrac à Lille, dans un café-jeu, on a testé ça pendant une soirée. C'est un jeu qui se veut plutôt immersif.
Ouais, c'est un bon petit jeu de mots, pour le coup, en périscope.
Ouais, en périscope, avec la tablette. Pour moi, c'est un super jeu, par contre, il faut être super calme pour jouer. Faut pas boire des bières, sinon on t'y arrive pas. C'est quand même assez complexe.
Le schnapps, ça passe ou pas?
Le schnapps, ça passe parce que t'es dans un U-boat. Mais bon, du coup, tu touches pas beaucoup de bateaux quand tu bois du schnapps. Mais voilà.
C'est quoi l'objectif de ce jeu?
Alors, l'objectif, c'est. Je vais reprendre la parole.
Ouais, vas-y.
Pour le coup, pour la partie, t'es pas sur un jeu de simulation. Réellement, on n'est pas. Contrairement à ce que pourrait annoncer la boîte, où on te dit, bon voilà, vous avez tenter l'aventure de la guerre, enfin la Seconde Guerre mondiale, dans un U-boot, donc le côté claustro, et dans une démarche coopérative gérée par une tablette. Voilà, ça appartient à ces jeux qui se font aider d'une IA pour gérer tout ce qui est éléments aléatoires, et alors, ça plaît ou ça plaît pas. Je te vois montrer des canines.
Moi, je suis pas très, pas très fan là, du mélange de tablettes, je trouve qu'on a déjà assez de vie pour rajouter dans les jeux. Mais...
Ben, ça, c'est l'informaticien saturé qui parle.
Ah oui, c'est ça.
Ça peut être un parti pris. Après, d'un autre côté, il ne te ment pas, elle est indispensable au jeu. C'est pas
indispensable.
Elle est vraiment indispensable au jeu. Ouais, c'est vraiment affiché en tant que tel. T'es pas en capacité de prendre le relais de la tablette en tant qu'humain. Tu veux dire, ok, on se passe de la tablette, je vais gérer avec les pions et machin. On n'est pas du tout là-dessus. C'est vraiment la tablette qui supplante l'esprit du jeu, quoi. Elle t'impose des éléments, elle rythme la partie, elle génère les rencontres qui sont aléatoires en fonction de la mission.
D'accord, donc elle apporte l'aléa, en fait.
Alors, elle apporte l'aléa, et elle fait tout le micro-management, c'est-à-dire qu'un peu dans un esprit, on va dire, de logiciel, comme si tu étais tout seul devant ton PC ou devant ta console vidéo, tu ordonnes à la tablette, et elle réalise l'ordre. Alors, le truc, c'est que... au lieu d'être simplement sur ok, je demande une plongée à 80 mètres, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une chaîne de commandement qui se met en place. L'intérêt du jeu, il est là. t'es sur un jeu de gestion coopérative, c'est-à-dire que t'as un capitaine qui va imposer à ses sous-off et ses officiers des ordres, et eux ils sont en mission de les réaliser. Donc déjà, t'as une chaîne de commandement, un mec qui décide, en centrale, le capitaine de bord, il va demander une plongée, ou il va demander à un mécanicien de réparer telle chose en priorité, et après, à charge pour les mecs d'être au bon endroit, au bon moment, et puis de réaliser l'ordre comme il se le voit, en consommant le minimum de ressources aussi.
Donc là, ça rappelle un peu Space Alert, en fait, dans l'esprit.
Alors, on retrouve cet esprit-là, le Space Alert, alors, qui lui aussi est un jeu coop, bon, là, qui se passe dans l'espace. Mais par contre, là, le séquençage du tour n'est pas le même. C'est-à-dire que le Space Alert, à l'inverse de Space Alert, le Space Alert, c'est tout le monde programme ses ordres, on rembobine le film, visite, et on déroule petit à petit ce qui se passe. Hein, on annonce qu'il y a un monstre en salle 3, ok, tout le monde prend ses dispositions de son côté, on communique de manière orale, il y a des tuiles qui sont cachées, on sait pas ce que fait le voisin. Ça, c'est Space Alert. Là, sur Reboot, tu vois clairement ce que tout le monde fait.
D'accord.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de on rembobine. C'est à l'instant T, je réagis parce qu'il y a le feu en cuisine, parce que Helmut, il a renversé la graisse à frire. On se rend, à ce moment-là, le capitaine, il a la tête dans le périscope, et puis il dit merde, Artoon Alert, quoi. Donc, on a le feu en cuisine, et puis Artoon Alert. C'est quoi la priorité? Ou on met les mécaniciens, on les met à la barre de plongée pour gérer, ou on les met en cuisine pour éteindre l'incendie.
C'est ce qui nous est arrivé d'ailleurs sur la partie. Tu vois, on était en train de chasser un bateau de commerce, et pendant ce temps-là, on n'avait pas fait la maintenance d'un four. Du coup, bah, au bout d'un moment, on s'est dit, ah, le four, c'est pas très grave. Bah, le four, il a cramé, quoi. Donc les mecs qui étaient à l'endroit où le four a cramé, bah, ils ont commencé à cramer aussi. Donc ça cause du stress, enfin, c'est vraiment le... Du coup, après, c'est vraiment le Bronx, quoi.
Ça cause du stress, ça cause des morts, ouais.
Oui, bon, ils meurent pas, hein, ils sont blessés, mais et le rôle que t'as autour de la table, il est hyper important. En l'occurrence, moi, j'étais second, et franchement, second avec deux bières dans la tronche, ça a pas été facile, quoi. Voilà.
Second, c'est le plus important d'un bateau.
Ouais, exactement. Bah là, tu le ressens vraiment sur le jeu. Quand t'es second, t'es vraiment le bras droit du chef qui lui a plutôt le cul dans le beurre, il donne les ordres, il gère le stress, il gère les events, et il te dit bon ok, il va falloir qu'on plonge et qu'on aille à tel cap. Donc toi tu dois donner les ordres au mec qui calcule le cap, la vitesse, enfin voilà, il doit trouver l'itinéraire, c'est vachement bien foutu. Il y a tout plein de, dans la boîte il y a vraiment quantité de matos. Sans acheter la version Deluxe, où il y a une version Deluxe avec les petites figurines et tout ça, le moteur, etc. Rien que la version de base, je pense que déjà c'est largement suffisant.
Les figurines, pour le coup, elles ajoutent quelque chose. Ouais. T'as quand même une représentation 3D du sous-marin qui est en milieu de table, qui permet de visualiser rapidement la position de chaque membre. Donc, quand t'es pas sur la version avec figurine, c'est les pions à plat. Comme la maquette est en 3D, y a un truc qui bloque. Quoi. La boîte est en carton, la maquette. On aurait préféré, dans la version de base, des silhouettes peut-être découpées avec des emporte-pièces dans lesquelles on aurait affiché des éléments cartonnés.
Un peu la Blue Ball de
VV1. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'est le reproche que j'avais fait à la boîte de base avec le démon. C'était pas un reproche. La remarque, plus exactement, c'était pas un reproche en tant que tel. Peut-être sur possibilité de customiser ça ou de prendre des proxys, hein. C'est pas non plus le truc le plus compliqué à aller chercher. Mais bon, c'est regrettable que la boîte de base soit pas équipée de ça. Donc, bonne expérience de jeu. Par contre, un jeu avec une courbe d'apprentissage qui est assez pentue, puisque pour arriver à en tirer le meilleur, je pense qu'il faut rester avec le même groupe. Donc ça, c'est ce que je reproche au jeu. Il faut vraiment évoluer en même temps. Donc ça veut dire, tu peux pas dire, bon, ok, ce soir, la semaine d'avant, t'as joué avec quatre potes qui sont identifiés A, B, C, et D. Si derrière, t'en as un qui s'en va, et puis tu le remplaces par un autre type, voilà, la courbe d'apprentissage, on va dire, elle est pétée. Le mec, il va pas être opérationnel sur son poste, et puis il va se sentir un peu exclu parce qu'il va être à la traîne, ou pour le coup, il va pas remplir sa mission comme les autres vont la remplir. Donc, bien, mais réservé à un groupe de joueurs qui jouent ensemble et qui n'ont pas envie de désigner un super méchant, on va dire.
Je reviens un peu sur l'usage de la tablette. Ça casse pas l'ambiance de jeu, justement, le fait de devoir s'arrêter, peut-être de rentrer les choses dans la tablette.
Alors, pas tant que ça, parce que, en fait, dans ce jeu-là, contrairement à d'autres que j'ai pu tester, qui utilisent aussi les tablettes, beaucoup de trucs coopératifs notamment, là, comme t'es dans un protocole d'ordre, où par exemple le capitaine dit barre à 80, tu vois, il donne un cap. Et ben, le second, Il copie l'ordre du capitaine. Le capitaine vient de dire l'ordre, la barre à 80. Ok, je copie l'ordre. Et il répète que la barre est bien à 80. Et il le répète uniquement une fois qu'il l'a mis dans la tablette. Donc ça veut dire que du coup, tu te retrouves dans un séquençage vraiment d'un navire de guerre. C'est-à-dire que le capitaine demande, je reçois l'ordre, je l'exécute, donc la tablette, c'est là où intervient, je dis que je l'ai fait. Voilà. Et ça remonte au capitaine. Et donc du coup, tu es dans cette séquence en fait.
Et donc tout le monde ne doit pas se passer la tablette de personne
non,
en personne.
C'est le second, c'est le second qui fait ça.
La tablette, d'accord.
Ouais.
C'est
déjà, ouais. Par contre, à toi après derrière, alors, aussi c'est, on parle bien de tablette, un smartphone clairement ça fait pas le café. Pourquoi? Parce que l'écran est pas bien visible de tous en ouais. fait. La dynamique, le plan de table on va dire imposé pour jouer à ce jeu là correctement, voilà, c'est le sous-marin au centre, voilà, avec les mecs de chaque côté par rapport à, on va dire, leur poste de prioritaire sur lequel ils vont agir, et puis ensuite la tablette au bout proche du second, quoi, histoire qu'elle soit visible de tout le monde. Et après, elle va bouger. Parce qu'au moment où le capit va mettre, ou le second, en fonction du quart sur lequel il se trouve, va mettre son nez dans le périscope, mais il n'y a que lui qui regarde la tablette, quoi. C'est lui qui la regarde. Et pas les autres. Donc, il y a aussi c'est. J'avais fait une partie à Ludinor, avant celle que j'ai fait avec Dimitri Ludibrec. Et pour le coup, on est vraiment arrivé en fin d'exercice du festival, de la convention. Et l'atmosphère était hyper tendue. Mais on avait réussi à impulser quelque chose de très très stressant autour de la table, à tel point qu'un des joueurs était mis en inconfort par rapport au stress du jeu. Bon, après c'était une convention, voilà, le mec il s'est installé, il découvrait le truc, il était pas à l'aise en fait. Il s'est dit j'étais vraiment pas bien. Quoi. C'était je me suis senti étouffé, écrasé, en gros comme dans un sous-marin. Quoi. Donc là pour le coup l'expérience était vraiment bien réussie, mais ça n'a pas été une bonne expérience de jeu. Le mec il nous a dit c'est une super expérience, mais je la reproduirai pas, ça m'a incommodé en fait. Un retour très très fort quand même, après vous connaissez, c'est pour pas le nommer, c'était Hervé, qui est un gros joueur de gros jeux. Et comme là il y a aussi une dynamique de quelle est ta décision, dépêche-toi. On n'arrête pas le chronomètre en fait. On n'arrêtait pas le chronomètre. Donc ça tournait. Donc il y a une espèce de stress test. Où on était en temps réel, quoi. Et au moment où tu dois commencer à balancer des torpilles, t'as ta tête dans le périscope, t'es en chrono. Alors c'est bon, le capitaine a dit les lancer, mais vas-y, on les jette. Et puis c'est toi qui as la décision.
Il occupait un poste particulier ou...
C'est lui qui devait lâcher les torpilles, en fait.
D'accord.
Et en fait, il était super tendu, il était c'est bon, on y va, machin. Et je donnais pas l'ordre, en fait. Je voulais le bon vecteur, je voulais être à la bonne distance, mm-hmm. tu vois. Et au moment de balancer les torpilles, c'était un soulagement. Parce qu'on a eu 3-4 minutes et autour de la table, c'était silence. Tout le monde écoutait, quoi. Et c'était vraiment on a retrouvé l'espace de quelques minutes, l'atmosphère de la série Ubud, quoi. Tout le monde a en tête, quoi.
Il y avait eu un jeu vidéo qui s'appelait Silent Service.
Ouais, tout à fait, ouais. Et ben graphiquement, ça ressemble un peu à ça, hein, vraiment, ouais. Ce que tu as sur la tablette. Hein.
Silent Thunder, non
Non, ah, Silent Service, il y a eu Silent Hunter aussi. Enfin, Silent, quoi. Mais ouais, donc bonne expérience de jeu.
Et puis c'est original. Okay. Autant en jeu vidéo, il y en a du. Bon, il n'y a pas beaucoup en jeu vidéo, mais ça a existé en jeu de.
Et du coup,
plateau, je crois que c'est le seul qui est
ouais. Du coup, on le trouve à combien? C'est 85 euros, c'est ça?
Ouais, t'approches les 90, ouais, quoi.
Après, 90 euros. Ouais, bon. Ouais.
Est-ce que ça dégoûte? Parce que le matériel dedans, si j'ai bien compris.
Le problème, c'est que.
Qu'est-ce que t'as pour ce prix-là, quoi?
Quand tu prends ce coup-là plein dans la tête, et que tu regardes ce qu'il y a dans la boîte. T'es un peu en dessous, ouais. t'es clairement en dessous de ce qui est produit sur le marché.
Si tu prends Dark Souls qui a 90 boules, je pense que t'as.
Alors, si tu fais un comparatif avec du kilo plastique,
ouais, c'est là,
t'as braqué le marché, c'est non.
Ça, ouais, voilà, c'est clair.
Ça vaut pas le coup. Par contre, il faut aussi prendre en compte qu'il y a deux développements. Ouais. Le jeu en tant que tel, la production du carton que t'as dans les mains, la règle, et puis derrière, il y a un développement qui est Tears, qui est l'application.
Ouais.
Donc ça, tu prends ça dans la tête. Comme c'est pas une structure lourde comme d'autres sociétés de production, c'est un peu plus dur. Alors, le hic.
De toute façon, Greg, ça s'adresse pas aux mêmes personnes. Ah non. Ça s'adresse aux Wargamers. On sait que les Wargamers, sur PC, ils jouent avec des eggs, ils sont foutent royal, mais le jeu il va quand même coûter 40 euros pour un graphisme en 2D dégueulasse.
Ouais.
C'est plus le développement du jeu. Et puis, après, sur les éléments de jeu que t'as dans la boîte, il n'y a peut-être pas beaucoup de plastique, mais quand même, t'as le carnet pour calculer les coordonnées.
Ouais.
Enfin, c'est quand même super bien foutu. Il y a le truc pour la machine Enigma où tu dois décoder en fonction de la date.
Non, c'est poussé.
Il y a quand même plein de matos qui sont excellents.
Hein, c'est peut-être une mauvaise réflexion d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on associe le prix d'un jeu à son contenu. Alors qu'on pourrait très bien l'associer à son intérêt ludique, à ce genre de choses.
Au développement qui a été mis dans le jeu. Quoi.
Et je crois que c'est vraiment un dérivé du côté Kickstarter et même des grosses boîtes que fait Games parfois. Hein, c'est que finalement aujourd'hui on dit pour 90 euros combien j'ai tiré de plastoc.
Alors que
je peux avoir un jeu tout pourri avec plein de plastoc.
De toute façon tu le sens bien. Hein, tu passes pour du Kickstarter, bien souvent t'as envie de pledger uniquement par l'aspect graphique. Ce qui est mis en avant c'est la belle figurine qui va défoncer. Mmh. T'as un étage, un volume conséquent de plastoc. Et derrière, moi c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas encore appuyé sur le truc je veux Kickstarter. Parce que la matrice de règles, souvent, le moteur, on va dire, la carrosserie, tu la vois, elle est nickel. Par contre, le capot, c'est pas ce qu'il y a dedans. Le mec, il peut très bien te vendre une Dacia, quoi, tu vois. Tu sais, le capot, oh putain, c'est un Amic 2. En fait, la carrosserie, c'est une Ferrari, quoi. Mais t'avanceras pas, c'est nul. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de creux, voilà. Donc, c'est ça qui me dérange un peu, quoi. Après, on va peut-être me trouver dur, mais il y a quand même beaucoup de jeux qui sont là-dedans, quoi. Ou alors, où t'es étouffé par les règles, quoi. Tu sais, mal branlé, machin, tu vois, bref.
Ah, sur les Kickstarter, moi j'ai l'impression que c'est toujours un peu
partout. Ouais, c'est.
Il y a kilos plastiques, il y a une jolie présentation, mais parfois les règles.
Moi j'ai vu beaucoup de Kickstarter futuristes. Je regardais les trucs, je fais, ouais, il est où la règle, c'est pas top. Il y avait eu le Kickstarter de chez Warzone en son temps, j'ai acheté après les figurines. Bon, le jeu était sympa, mais c'est vrai que c'était très complexe. Et aujourd'hui, on est plutôt sur des jeux simples en fait, en figurines qui vont vite à mettre en place, multi-plateforme, des trucs comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Et du coup, ça me permet d'enchaîner, si vous voulez bien.
Enchaînement.
Après U-Boat, et passer plus sur du jeu de figues. Mmh. Je voulais parler de Saga, l'âge de la magie. Là, parce qu'en plus, ce soir, il y a 4 personnes qui jouent, qui vont tester pour la première fois la matrice de règles. Ouais. Donc, je leur ai demandé de tester, puis d'éventuellement revenir après pour faire un feedback sur le jeu, les règles, etc. Donc Saga, l'âge de la magie, c'est un truc un peu mainstream. Alors, si j'ai bien tout compris, parce que j'ai pas vraiment lu, c'est une matrice de règles qui suit un peu les règles de Saga qui existait, qui était un jeu d'escarmouche historique entre Vikings, Anglo.
La grosse escarmouche.
La grosse escarmouche.
Ouais, c'est la vraie particularité. Hein,
c'est entre les deux.
Il n'y a pas 3 figurines et du coup pour moi c'est déjà trop par exemple.
D'accord, ok. Et donc à la base Saga c'était des Anglo-Normands contre des Vikings.
Il y avait des Anglo-Danois, il y avait des Vikings.
C'est cette période-là, âge sombre plus ou moins.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment âge sombre.
Étendu.
Les croisades.
Après ça s'est étendu.
Ouais, après ça s'est étendu. Les croisades sont venues dans un second temps.
Et donc du coup là ils ont sorti un truc Medfan où tu peux jouer pour tous les frustrés de la V8 de Warhammer Battle, ils peuvent ressortir leurs figurines, non mais pas que, mais tu peux aussi sortir tes figurines War Machine si j'ai bien compris, il y a moyen.
Il y a pas de marque native en fait associée à la règle.
Donc c'est ça qui est plutôt bien, du coup tu peux prendre n'importe quelle figurine. C'est un peu ce que j'avais moi pour le coup aimé sur Frostgrave quand j'avais joué. C'est que j'avais pu me prendre des samouraïs d'un autre jeu comment mixer avec du Reaper pour faire une bande de magiciens. Là, je me dis que du coup, l'âge de la magie, c'est sympa parce que tu peux aller chercher de la figurine alternative faire un truc avec du caractère alors que... et d'éviter d'être dans une armée mono-orientée où je fais que des hommes lézards et puis c'est que des hommes lézards et basta quoi.
Moi, j'y vois deux gros intérêts. Au-delà du système de règles qui est mis en avant par le studio Tamarot, ça reprend la matrice de Saga, comme tu as dit, qui est en effet un jeu, on va dire. C'est pas un jeu de masse en tant que tel, qui est pas non plus un jeu d'escarmouche qui est entre deux. C'est vrai que 40-50 figurines, à partir du moment où elles sont pas tirées en unité, parce que c'est pas de l'escarmouche, tu peux te poser la question.
Ouais.
Par contre, sur le côté historique, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, en effet, Saga, la version de base, est un prétexte historique en fait à réaliser des factions. On n'est pas sur, on ne cherche pas à faire de la reconstitution. En fait. On est réellement sur, je joue Viking, on est normand, on est sur une démarche de prétexte en fait historique.
et c'était un jeu ultra compétitif. Hein. Saga,
c'est plutôt pas mal au niveau de l'équilibrage. Il y a beaucoup de compétiteurs qui s'en sont emparés pour faire des gros tournois.
Je savais pas ça.
Ouais, il y a eu le Pro Tour, etc. Il y a eu des choses qui fonctionnent très très bien sur Saga. Il y a vraiment du gros gaming dessus. Là aujourd'hui, la déclinaison qui en est proposée sur Saga H de la Magie, l'objectif clair, on va dire, c'est du casual. Enfin, pour moi, la manière dont je le perçois, c'est vraiment aller vers du casual canapé, comme je dis de temps en temps. C'est l'objectif, c'est d'ouvrir ton armoire dans lequel tu as de la figurine peinte, avec qui tu trouves pas forcément d'adversaire sur le système natif, hein, pour apprendre sur celui tout à l'heure. Je prends un exemple, hein, là, la machine du même environnement proche, c'est cuit. Il n'y a plus personne. Pour autant, mon armée de dragons, j'ai envie de la voir sur une table. En dehors de la mettre sur ma table et puis d'attendre un adversaire potentiel, je vais sur H de la Magie, je vais pouvoir prendre ces figurines qui sont des figurines de cœur, que je tiens, je vais les reposer sur la table, je vais les faire rentrer dans une matrice où tout rentre. En fait. Libre à moi de les faire rentrer dans une thématique qui colle un peu graphiquement, quand même, à ce qu'est mon armée. On va t'en proposer 6 dans le livre de base. Bon, globalement, t'as les super brutales, les mecs qui font beaucoup de magie, les technos, voilà. On retrouve des archétypes, mais très généralistes, afin de laisser aux joueurs le droit de réinterpréter la règle à sa sauce, puisqu'il va s'en emparer, en faisant rentrer son armée favorite, graphique, sur une matrice de règles. Et ça, franchement, ce geste-là, il est génial. Mmh. C'est une idée qui déboîte. Franchement, ça tue. Ça tue parce que... Tu laisses le joueur en responsabilité et s'approprier pleinement le système, et ça c'est génial. Voilà. Et derrière, c'est à partir du moment où le mec il va s'approprier le système, et ben il n'y a plus qu'un pas à faire pour ce qu'on aime à la Forge. Bon, je vais faire un peu de pub pour l'assaut, c'est la démarche narrative en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as été sélectionné, un graphisme qui te convient, qui rentre dans une de ces 6 familles, derrière, ben, qu'est-ce qu'elle raconte ton armée? D'où elle vient? Qui elle est? Pourquoi tu as pris telle figurine? Ce mec-là, ton général machin. Alors, au-delà de, ouais, je l'ai joué en tournoi, je l'ai acheté à telle date, c'est du vintage, je l'ai peint comme ça. Ok, ça, c'est l'aspect graphique. Mais du coup, tout est fait pour que tu ailles dans ce sillon-là. Et franchement, pour moi, ça voilà, si j'ai bien un projet sur 2020, c'est celui-là. Plus que AOS, d'ailleurs.
Plus que AOS.
Ouais. 2020, c'est loin, tu vas me dire, d'accord, mais.
On est obligé de prévoir loin.
On est obligé de prévoir loin quand on a qu'un seul vendredi par semaine.
Et un seul vendredi et 15 tonnes de plastique à la maison. Parce que c'est ça aussi, là, le problème.
Et ouais. Tu dis que c'était des batailles rangées, donc c'est.
C'est exactement le même format
que carré, là
non, du tout. Alors, tu retrouves. Alors, le soclage, je crois qu'il n'est même pas défini d'ailleurs. Il va peut-être être imposé sur les tournois. D'accord, ok. Donc, soclage imposé, bon, certainement un peu comme sur ce qu'ils avaient fait sur Saga, du 25 mm, ou plus gros pour les machines de guerre.
Le soclage carré, c'est un peu passé de mode, mais franchement, à part peut-être nos amis qui font du. Du Lannister, machin là.
C'est de la plaquette. C'est même pas du socle carré en tant que tel. C'est de la plaquette sur laquelle t'en fiches des figurines à Saucuron.
Tu veux dire la plaquette ou le socle carré carrément?
Un peu les deux. Je trouve que le socle carré c'est pas très esthétique et la plaquette ça fait très statique.
Ouais.
En termes de jeu, quand tu veux le mec avancer sa plaquette de 20 cm sur 10,
ça fait piège style, c'est ça que tu veux dire? C'est plus un piège style.
Moi j'ai toujours trouvé ça le côté plaquette de Warhammer Battle. Quand j'étais gamin et que je débutais sur 40 000 et que je regardais Battles, ça a toujours fasciné ces plaquettes avancées. Et ça me faisait fort penser au jeu, là, le Seigneur de Bataille de MB, là, qui était aussi un ersatz de Games, je crois, c'était Games qui avait proposé.
Ouais, c'était
sous. Tu jouais sur un immense tapis, t'avais plein des tours, des machins, et donc du coup, bon, moi je suis un amateur de jeux de masse, donc forcément, ça me plaisait, quoi. Mais du coup, par contre, je te rejoins, Eric, sur le côté peu esthétique du socle carré, quoi. Ça, c'est clair que.
Et plus pratique. Dès que t'as les reliefs, moi j'ai beaucoup joué à la confrontation, les figurines en plus très très fragiles. Les socles carrés ont quand même une sacrée tendance à basculer.
Ouais.
Et ça, c'était ultra pénible.
Ouais, c'est pas super stable. Ouais.
Après, il y a aussi le fait que confrontation, c'était des figurines en métal. Aujourd'hui, les figurines en métal, t'en as plus beaucoup.
Non, bah là aujourd'hui, on est sur de la résine ou du plastoc. Bien que je regrette, tu vois, voilà, on s'égare du sujet, mais qui est plus trop de figurines de métal parce que ça quand même ça va mieux à peindre quoi. t'as du métal. Pour avoir peint toute ma bande Frostgrave en métal, c'était quand même plus facile, quoi. Voilà. Donc, ok pour le, l'âge de la magie. Du coup, on aura le retour après des gens. Alors ensuite, je voulais passer sur Batman miniature qui sort normalement un nouveau starter de base. Ouais, super intéressant. Alors le jeu est super intéressant. Je vais parler du jeu parce que moi j'ai fait un test. Je sais pas qui a joué autour de la table.
Moi,
t'as joué, Eric? T'as essayé?
Il y a eu quelques temps. Ouais,
il y a un moment. Moi j'ai testé il y a vraiment pas très longtemps à la Forge là, par nos deux masters qui nous feront d'ailleurs le retour sur l'âge de la magie. Ils jouent aussi à Batman miniature.
Il n'y a pas plusieurs jeux Batman miniature.
En fait, t'as deux jeux. T'as Batman Miniature Game, où c'est que l'univers de Batman et de Gotham et de Central City.
Voilà.
D'accord. Donc pour ceux qui connaissent les comics, donc t'as Batman, Catwoman, Batgirl. C'est vraiment l'univers super étendu des comics. Il y a pas que les films. T'as Swamp Thing et tout ça. Enfin, il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de gens. T'as des kidam de base qui sont soit des flics, soit des gangsters, soit la troupe du Joker ou de Mystery Man, etc. Après, t'as l'autre jeu qui est DC Universe, où là tu peux jouer avec Superman, le Green Lantern, enfin les héros un peu épiques de chez DC, mais là pour le coup. De l'avis des copains qui jouent, ils nous disent bon, ça a moins d'intérêt en fait. C'est forcément quand tu joues avec un Superman que tu le mets sur la table, je suppose, j'ai jamais testé, que c'est super badass et que du coup ça bute tous les petits bonhommes de base.
Mais par contre, c'est un jeu d'objectif, on va dire. Je crois qu'il n'y a pas que la baston.
La baston c'est une petite partie. En fait, pour faire un pitch sur le jeu, c'est un jeu à la fois de placement, parce qu'il y a tout placement, et de programmation de tes ordres. Donc moi j'ai retrouvé des sensations un peu similaires à T43 où tu préparais ta pile avec les cartes. Là c'est un peu le même délire. Ouais, tu prépares les ordres de ton gars et tu dis il va faire ça et ça. Et bon des fois tu peux te faire avoir hein, parce que ton gars il est plus en position de réaliser l'ordre que tu lui as donné. Et en fait tu as donc la ville, ça se joue toujours la nuit. Donc les personnages voient pas à plus de 12 pouces. Tu peux placer des lanternes. En fait chacun ton tour tu places des lanternes et chacun trois objectifs qui sont comment dire, c'est des objectifs avec lesquels tu vas pouvoir agir en fait. Il y a un sac de thunes, il y a des sérums un peu de drogue que tu t'injectes et que tu deviens super balèze, voilà. Et après tu fais le décompte à la fin de partie pour savoir qui a le plus de points et tu gagnes. Alors après il y a des scénarios un peu plus fouillés.
C'est quoi un peu les scénarios là-dedans?
Alors je sais pas, moi j'ai testé un truc super bateau, chacun trois objectifs, il fallait faire le plus de points de victoire.
Les objectifs c'est physiquement sur l'objectif.
C'est ça, faut que tu déplaces ta figurine, alors en fait tes objectifs sont chez l'adversaire.
D'accord, ok, donc tu dois forcément une confrontation.
Tu dois les placer, c'est toi qui les places, mais donc du coup je dis peut-être des bêtises hein, parce que ça fait un mois que j'ai joué et du coup j'ai pas une mémoire de ouf pour ça. Tu places tes objectifs et toi tu peux aussi aller empêcher de prendre le contrôle des objectifs adverses. Donc moi pour le coup pour faire mon retour sur la partie, j'ai joué Harvey double face contre les Watchmen. Voilà. Donc dans chaque bande t'as un héros qui peut être Batman ou un super méchant, des mecs de base, et tu peux avoir un sidekick qui est en gros un second couteau comme Robin quoi. Et le sidekick ouais. La particularité des Watchmen c'est que c'est que des free agents parce que tu peux aussi prendre des mercenaires et les Watchmen c'est que ça. Donc voilà, et tout ça pour dire donc Night Model qui édite le jeu sort une boîte Dark Knight avec le Joker mais version le film quoi, Dark Knight Rises, le Batman du film, la boîte de base, je me trompe, c'est pas le Joker, c'est Batman avec Bane. Il y a le véhicule aussi de Batman. Il y a Catwoman aussi dedans, la même que dans le film.
Version Anne Hathaway.
Ouais, c'est ça, exactement. Ce qui est super intéressant, c'est que dans la boîte, t'as du décor. Alors c'est du carton, polystyrène, plume, je sais pas trop. Mais ouais, c'est un genre de truc comme ça, c'est assez bizarre. J'ai pas su identifier en fait quand j'ai regardé les photos. J'ai eu la flemme, je crois, de regarder la description. Donc voilà, mais voilà. Donc ils sortent. Alors le prix, il me semble que c'est plus de 100 €. Donc c'est quand même, c'est quand même assez cher. C'est un gros investissement. Globalement, les figurines sont assez chères. Tu peux les trouver sur des sites internet pas trop chers, mais bon, ça reste un jeu qui est assez cher. C'est pas une échelle de 28 mm en plus. On est plus sur 35 mm, je crois. Les figurines sont assez grandes. Mais c'est super fin au niveau de la gravure, quoi. C'est vraiment.
Est-ce que tu sais si c'est le même genre de résine que ce qui a été utilisé sur. Harry Potter,
alors, c'est
du métal, il me semble.
C'est du métal pour Batman miniature. Alors là, pour le coup, je pense que sur cette boîte, on est sur de la résine et pas sur du métal.
D'accord.
Ouais. Je pense qu'on sera sur de la résine. Il faudrait vérifier précisément, mais je pense qu'on est sur de la résine. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, quoi. Et dans la boîte de base, il y a les tokens, il y a plein de trucs, parce qu'en fait, chaque personnage a sa petite carte avec que tu peux aller trouver sur leur site. L'imprimer si tu, par exemple, tu as acheté les figurines après ou si ça change, etc. Mais ça, pour le coup, c'est en libre accès, même les règles sont en libre accès, quoi. Donc voilà pour Batman Miniature. Moi, en tout cas, j'ai super bien aimé le jeu. J'ai déjà pour projet d'investir pour faire la bande de Harvey Double Face, j'adore le style de jeu. Voilà.
En termes de complexité, c'était abordable?
Ouais, ça va assez vite, hein, tu comprends. Après, un très novice sur du jeu de figurines, à mon avis, il va lui falloir du temps pour appréhender le jeu vraiment complètement. En revanche, si t'es habitué à jouer régulièrement au jeu de figurines, ça va assez vite, quoi. Allez, on va dire, ça se situe. C'est pas aussi. Bon, Infinity, je dirais que c'est complexe à peu près, quoi. C'est pas si complexe que ça, ça va assez vite à comprendre. Mais il y a quand même pas mal de subtilités.
Infinity, le schéma, enfin le mode mécanique de jeu de base, en fait,
elle est très simple.
Et c'est très enrichi en fait par beaucoup de compétences. C'est ça. Mais la mécanique est très très simple.
Tu retrouves un peu ça sur Batman Miniature, la mouture de base, les jets de dés que t'as à faire, en gros, c'est assez simple. Par contre, la complexité, elle se situe plutôt dans la programmation de tes ordres sur la carte. Et là, pour le coup, c'est pas une complexité de règles, c'est une complexité de comment tu vas décomposer tes actions, quoi. Et ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Parce que tu peux, c'est visible de tout le monde, la programmation d'ordre, et du coup, tu peux bluffer, tu peux regarder ce que va faire l'autre, tu peux regarder s'il lui reste des actions, s'il lui reste des gens à jouer, enfin voilà, il y a toute cette dynamique-là, quoi.
Alors, moi, je l'avais essayé il y a pas mal d'années, je dois reconnaître que j'en garde un souvenir assez laborieux, quoi.
Ah ouais,
Mais bon, après, voilà, ça, une partie, ça ne suffit pas. Peut-être que ça a changé depuis, hein, je ne saurais pas dire.
Peut-être pas les mêmes règles qu'à l'époque.
Mais je me rappelle justement que la programmation de ces pions d'ordre, ces pions de possibilités, ouais, en quelque sorte, était quand même assez lourde, parce que de mon souvenir, il y en avait parfois une dizaine, voire une quinzaine.
Ça dépend avec quelle bande t'as joué.
Ça dépend avec quelle bande. Ouais.
Je sais que les garçons, Jean-Phi et Tanguy, avec qui on a joué, qui m'ont initié, ils m'ont dit qu'il y a des bandes comme le pingouin, t'as plein de monde, et donc du coup, ouais, ça peut être laborieux, je pense. Je pense que tu sais plus quoi faire tellement t'as de choses à faire, quoi. Donc ouais, moi pour le coup c'était assez équilibré. Moi il y avait un côté super hasardeux avec lancer la pièce parce que t'es double face et que du coup soit c'est bien soit c'est pas bien en fonction de ce que la pièce dit, quoi. Mm-hmm. Mais moi ça me convient. Enfin voilà. Mais là pour le coup ouais, la nouvelle boîte ça peut permettre de se lancer dans le jeu, sachant que t'as plusieurs Batman, c'est ça aussi qui est assez drôle. Tu peux jouer avec le Batman des années Gallup, là, années 50. C'est vraiment la fille. Enfin, j'ai regardé un peu les caracs.
Pim, pam,
voilà, c'est ça. Il y a une compétence qui s'appelle Kappa ou un truc comme ça, quoi. Et t'as vraiment le Batman et le Robin de l'époque, hyper flashy, en pyjama, ouais. Avec le Joker de l'époque et tout. Il me semble que. Ouais, c'est. Voilà. Et donc, t'as tous les films et t'as aussi les dessins animés, là, la série de dessins animés. Qui est vachement bien.
Celle qu'on avait quand on était gamin.
C'est ça, ouais. Des années 90, je crois, elle date, cette série Batman. Et du coup, t'as les mêmes figurines, t'as le Green Arrow de la série des dessins animés. Enfin voilà. Voilà, j'ai à peu près terminé sur Batman. Maintenant, on va s'attaquer au gros morceau Games Workshop, les sorties. Là, il y a eu plein de sorties. Il y a eu Slaanesh qui est sorti, qui est quand même vachement pas mal.
Mais hors de prix.
Mais hors de prix, on est d'accord. Surtout, moi, j'arrive plus à suivre. On va dire, c'est un peu le ressenti, même sur les Facebook divers de figurines. J'ai du mal à suivre malgré tout. Pour décrire, moi, je suis revenu à 40 000 parce que les figurines me plaisent, elles sont super qualitatives, mais il y a beaucoup, c'est trop étoffé. Alors après, ça s'argumente différemment, dans le sens où t'es pas obligé de faire toutes les factions, quoi. Tu peux, si tu fais garde impériale, par exemple, comme toi, André, là, t'es un peu déçu parce qu'il y a pas grand-chose qui sort. Mais par contre, si t'es joueur KO, t'es super content parce qu'il y a plein de trucs qui sont sortis, quoi. Voilà. Moi, ce que je reproche, c'est que parfois, sur certaines sorties, certaines boîtes, en kit bash, il y a pas grand chose. Tu peux pas récupérer les pièces de tes grappes. Alors, c'est plus qu'avant.
Ouais. C'est vrai que depuis quelques temps, en fait, j'ai l'impression que les grappes, s'appauvrissent un peu en rabio.
Pour le coup, moi qui ai monté les Plague Marines, j'ai acheté la boîte de Plague Marines où il y a quand même pas mal de rabios. J'ai pu refaire des trucs à côté, ou même les boîtes Adeptus Mechanicus avec tout ce qui est. Enfin, je sais que tous les mecs qui font Inquisimunda justement, les grappes de Sicarion Infiltrator et de Skitarii, tu peux faire carrément la blinde de trucs avec. En revanche, là. Les derniers trucs qui sortent, c'est bof. Alors peut-être il y a des gens qui diront, je suis pas d'accord avec toi du tout. Ce qui est sur les grappes Slaanesh, j'en ai aucune idée. Il y a eu la Shadow Spear. Alors toi, Amos, du coup, t'as eu entre les mains Shadow Spear. Est-ce que t'as beaucoup de réutilisation des grappes et tout ça? Alors je sais que toi tu fais pas forcément du kit bash, mais est-ce qu'il te reste beaucoup d'éléments à la fin quand t'as tout collé ou pas?
Alors moi la partie SN je l'ai récupérée déjà mon père.
Ah quel coquin. Mais... donc tu sais pas ce qui reste sur les grappes.
Mais à mon avis c'est du easy to build.
C'est du easy to build.
Mais t'as pas vraiment de... vraiment de découper un bras de.
Ouais mais il faut.
De toucher le green stuff, les trucs comme ça, mais
ouais.
Sinon. Voilà, je pense que.
Vous pensez que c'est une démarche volontaire de la part de Games Workshop de dire on en met moins
C'est peut-être plus simple à monter pour essayer d'avoir plus facilement des gens qui voudraient dire je monte ma figurine en 2 spi, je veux pas spécialement la custom pour l'instant, je veux juste jouer en fait.
Ouais, toi tu vois plus que côté démarche, j'ai monté super vite les trucs, je me suis pas fait chier. Parce que c'est vrai que moi j'ai monté derrière moi le Mephitic Blighthauler là, de Nurgle. Qui a un véhicule qui ressemble à une coccinelle, là, c'est du easy to build, t'as pas besoin de colle, j'ai tout monté, c'est super agréable, parce que du coup, pour peindre à l'aéro, c'est hyper easy, tu peux tout démonter, tout faire à l'aéro en partie séparée, ça c'est quand même pas mal, t'es pas obligé, tu sais que tu vas pas avoir de la colle dégueulasse qui va venir saloper ton travail, donc ça c'est plutôt pas mal, mais du coup, les jonctions... Il y a des moments, t'as quand même des.
Alors, j'en ai une belle, hein.
T'as des jonctions, fais voir. Ouais, voilà, tu vois. Et souvent, c'est sur les capes, les épaules. C'est quand même des endroits vachement visibles. Bon, ça, c'est ce que je reproche parfois. J'ai pas forcément le réflexe.
Et le easy to build, c'est un peu chiant, quoi. Si tu parles d'un easy to build et que tu dois te taper le green stuff.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est une philosophie, quand même.
C'est, normalement, le easy to build, c'est quand même une philosophie où c'est les gens qui sont novices. Genre pour mes enfants, quoi. Et tu donnes et crack, tu montes et puis
Moi je sais que quand j'ai commencé à 12 ans Warhammer, l'espèce marine, le bolter il était dans une main mais il était pas dans l'autre bras quoi. Tu vois, enfin là au moins ton bonhomme il a son arme, il a sa pose et ouais.
Ouais, ça c'est quand même. C'est vrai que pour le coup, t'as connu les vieux Space Marine plastiques. Tous dans la même position en mode Playmobil.
J'aurais bien aimé avoir ça à 12 ans, tu vois.
Ouais, carrément, carrément. Dernièrement, j'ai relu les vieux White Dwarf à la sortie de du Rhino plastique, donc la version KO et la version normale. C'était genre une révolution, moi à l'époque, qui connaissait le Rhino à l'ancienne, qui est maintenant aujourd'hui devenu le schéma hérésie, pré-hérésie des Rhino. Il y a eu beaucoup de progrès à ce niveau-là. C'est vrai que On est sur maintenant sur de la gravure hyper qualitative. Après, voilà, ils ont du bon matos. Par contre, il faut qu'ils fassent gaffe, c'est la politique qu'ils développent, elle est parfois un peu... Enfin, sur Necromunda, c'est clairement... c'était clairement pas top, quoi. Les bouquins, les gang wars...
Alors, les gang wars, c'était très pénible, et ce qui a été encore plus pénible, c'est de lire, d'acheter les bouquins de résumé et de conclusion derrière, dans lesquels c'est encore marqué « Vous verrez le truc dans le gang wars suivant
ouais. »,
qui est jamais sorti. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune relecture, les paragraphes qui étaient déjà pas clairs, ils sont toujours pas clairs et toujours
aussi
mal écrits.
Même dans le dernier compendium là, le dernier truc qui
oui c'est sorti. Ça c'est de ça dont je parle, les compendiums c'est du copier-coller
de tous les gangwars
alors peut-être vaguement réagencé, encore j'en suis même pas sûr, mais avec les mêmes fautes d'orthographe, avec les mêmes mots qui auraient pas dû se trouver là, et surtout avec encore écrit vous verrez ça dans le gangwar suivant. Je pense en particulier au pouvoir psy, par exemple, où il t'explique qu'il te donne juste la base, mais que ça sortira dans le gang war qui suit. Sauf que, en fait, c'est pas le gang war qui suit. Et en plus, ils en ont fait un résumé pour dire que, enfin, voilà, moi, je pense qu'avoir fait une simple recherche textuelle à gang war dans le bouquin, ça coûtait pas très cher.
Ouais.
Et quand t'as la force de frappe d'un Games Workshop, tu peux quand même te permettre de te payer un relecteur français pour.
Après, je pense qu'ils ont. Réellement, honnêtement, tous les produits games, ils ont un gros problème en ce moment avec la traduction.
Ah oui, avec la traduction française en ce moment.
La traduction française, c'est vraiment là, même sur les bouquins, moi j'ai la griffe de russe et le bouquin qui suit derrière. Alors la griffe de russe, ça l'est encore. Et derrière, le livre qui suit, je sais plus c'est quoi, comment il s'appelle, faut le rechercher sur internet. Au pire, je le mettrai en commentaire sur le truc du podcast là. Mais là, c'était genre illisible à la fin. C'est-à-dire que j'avais des passages du livre qui devenaient illisibles. Et quand t'as lu des livres, les Résidorus, qui sont où il n'y a pas d'erreur, en fait, ou enfin les livres La fuite de l'Eisenstein, que tu sais, t'as lu dernièrement.
Alors, pas La fuite de l'Eisenstein, mais moi j'ai lu effectivement les compendiums qu'ils avaient sortis.
Ouais, l'omnibus.
C'est ça, les trois omnibus qu'ils avaient sortis. Et ça, c'était vraiment très très bien écrit.
C'est du super bien écrit, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de.
Et très peu, en fait.
C'est vrai, quand tu lis même Vigilius, j'étais surpris pour des bouquins comme Vigilius de trouver des fautes, quoi. De fautes d'orthographe, mais même au-delà des fautes d'orthographe, je suis vraiment une quiche en orthographe, donc voilà. Mais au-delà des fautes d'orthographe, des fautes juste de frappe, quoi, des coquilles, quoi.
Voilà.
Et tu dis pour un Games, tu dis quand même, les gars, et je pense qu'ils galèrent, en fait, à trouver des bons traducteurs, je pense que ça se trouve pas facilement. Ou alors peut-être qu'il les paye pas assez.
J'ai besoin d'un relecteur là pour le moment. À mon avis, il faut embobiner par un mec qui leur vend ses compétences et qui sont pas bonnes.
Ouais.
Et ce qui est flagrant, c'est sur comment il s'appelle le jeu de plateau là.
Blackstone Fortress.
Underworld.
Shakespeare. Sur Shakespeare,
il y
a des fautes colossales dans les dernières sorties, mais qui carrément foire le jeu.
Ah ouais, carrément.
Il y a des cartes où il y a quand même des textes qui sont minimalistes, où ils arrivent à quand même à sortir des grosses conneries, que ça déstabilise complètement le jeu, alors que c'est vraiment, il y a pas grand chose à traduire, c'est vraiment du mot à mot. Faudrait-il encore qu'ils arrivent à faire du mot à mot, quoi.
Est-ce qu'ils se disent pas du coup, tu vois, Games, alors là c'est une supputation, vraiment, ils se disent pas, c'est tout, on va tout mettre en anglais. De toute façon, les Français maintenant ils lisent en anglais, donc ils se débrouillent pour la plupart. On met très peu d'argent dans la traduction et dans la relecture de la traduction française. Et on laisse tout là. Alors je sais pas comment ça se passe dans les autres pays.
Alors ça, faudrait voir les autres langues.
Je sais pas, en italien, en allemand, tout ça.
C'est vrai que nous qui sommes adultes et qui parlons peut-être vaguement bien anglais, ou un petit peu anglais.
Ouais.
Peut-être que leur population un peu plus jeune, qui est comme une population achetrice de Stormcast par exemple.
Ouais.
Ces gens-là, ils parlent pas anglais.
Quand
t'es porté en sixième, ton anglais, il est skillé, mais bon.
En fait, concernant la presque omniprésence de petits mots d'anglais incrustés pour les noms des unités, par exemple, dans les différents bouquins, c'est parce qu'ils ont des problèmes de droit, en fait. Ils aimeraient contrôler, en fait.
Ouais,
c'est pas
des problèmes, c'est une volonté.
C'est une volonté pour pas créer des trucs réutilisables.
C'est pour ça que Garde Impériale s'est transformé en Astral Militarum.
En Astral Militarum, ouais.
Mais
c'est pour ça, tu vois, je savais même pas. Parce que moi, du coup, j'ai eu un gros. Si tu veux, moi, j'ai arrêté Games en 2002, un truc comme ça. et j'ai repris maintenant, quoi. Donc, ouais. Moi, si tu veux, ce qui s'est passé dans ce laps de temps, il y a eu AT43 pour moi. Et voilà, et après, il n'y a rien eu, quoi. C'est... Donc, ouais, quand j'étais surpris de voir que la garde, ça s'appelait Astra Militarum.
C'est assez récent, ça.
Ouais, c'est assez récent. La Deptus Astartes, qui a les Primaris. Bon, ça, après, qui modifie le fluff, ça me dérange moyen.
Ouais, c'est normal qu'ils veulent faire un peu évoluer leur projet.
Voilà, je trouve que c'est pas mal, parce que du coup, ils sont pas figés, tu vois, dans leur historique, etc. J'ai pas l'impression qu'ils, pour le coup, taillent leur jeu pour faire de la compète ou tu vois, ils écoutent tout le monde. Ils écoutent un peu les mecs qui font du tournoi. Ils essayent de faire un jeu où tu peux faire du narratif, où tu peux t'éclater entre potes à faire des histoires, etc. Mais globalement, voilà, ils écoutent tout le monde. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Parce que pour le coup, tu vois, et je le rabâche, les gens ils doivent en avoir marre sur Facebook, parce que je me débat régulièrement à discuter autour du jeu en mode tournoi ou pas. Tu vois, pour moi, Warmash, ouais. on est deux à y avoir joué. Je sais pas si t'as joué toi, André.
La première version, j'ai fait des initiations.
Ah, la M15, donc la M15, c'est encore différent. Mais moi, j'ai joué en M2 et en M3 avec Guillaume là. Ouais, on a passé de très bonnes parties. C'est vrai que c'est un jeu qui est assez compétitif.
C'est le summum du jeu compétitif.
Voilà, c'est. Mais, bon, là, Greg est sorti pour l'instant, mais il reviendra certainement en parler. Pour le coup, c'est un peu une chimère, comme dit Greg, d'avoir un équilibre dans un jeu. Il y a toujours des déséquilibres. Et moi, ce que je reproche à War Machine, c'est d'avoir de temps en temps vraiment mais plié le fluff pour faire de la règle, quoi. Et pour contenter le milieu du tournoi et vraiment plier le jeu, l'histoire du jeu, l'essence même de certaines factions pour juste convenir aux mecs qui faisaient du tournoi. Et revoilà Greg, du coup c'est parfait.
Bah, je sais même pas s'ils ont voulu convenir aux gens qui faisaient du tournoi en fait, parce que moi j'avais vraiment l'impression que c'était une politique commerciale avec des errata ultra violents où bon ok, maintenant vous voulez faire du tournoi, achetez 10 fois le griffon machin, 2 mois après errata, c'est bon maintenant vous pouvez revendre vos griffons, passer à la machine de guerre. Alors, ça c'était quand même quelque chose.
Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois t'avais un seed ou un machin comme ça et hop, ah maintenant c'est plus ça qu'il faut acheter, c'est ça. Et pour le coup, ce que je reprochais aussi, c'est que la qualité de gravure des unités plastiques, quoi, c'était vraiment parce que là, du coup, je te refais le pitch, hein, Greg.
Tu parles de Privateer
Press. Là, on est en train de parler de Privateer Press, tu t'as bien compris. Oui, mais on parlait de 40K, en fait. On parlait des sorties 40K, de Slaanesh, on en a très peu parlé au final. Mais on parlait des gros problèmes de traduction sur les dernières sorties de tout ce qui est bouquin. On parlait de la politique et de Necromunda. Sur ce qu'ils ont fait qui a été quand même pas terrible sur les gangoirs, et puis bah hop on vous mélange tout, mais on va pas vous refaire un nouveau truc, on va juste tout prendre les gangoirs et les mettre dans un seul bouquin. C'est vrai que là c'était un peu on a pris les vieux joueurs pour de la vache à lait.
Alors c'est bien Thierry qui l'a mauvaise sur ça, c'est
moi je comprends hein.
Parce que non mais ça se justifie hein, c'est
parce
pas
que, en fait, là ils avaient en face d'eux un public adulte qui est capable de faire des critiques constructives, qui est capable d'analyser ce que nous
voulons. De trier le bon grain.
Qui sont des gens qui, en plus, étaient acheteurs, ont une culture ludique assez importante, ont testé plein de marques, savent de quoi ils parlent, et ils leur ont fait de la merde, quoi. Et c'était, je pense, un public qui pouvait un petit peu soigner, et en plus, il y a eu un sondage de Games Workshop il y a quelques semaines de ça, où ils demandaient un peu ce qu'on pensait de leur projet et compagnie. Et je pense que c'est dommage de décevoir des gens qui ont un réel pouvoir d'achat. Parce que le pouvoir d'achat d'un mec de 40 ans, c'est pas celui d'un mec de 17 ans, même quand il est gâté par ses parents.
Bah, c'est, si je devais faire le.
Moi, en termes de business, je pense que c'est contre leur part.
Voilà. Ouais. C'est une faute, hein. Clairement.
Pour le coup, à Necro, pourtant, ils étaient vraiment dans le bon segment. On sentait que, ils voulaient faire plaisir aux vieux joueurs. Enfin, vieux. Quand je dis vieux, je parle des vétérans qui ont connu, les premières versions de games, etc.
C'est pas un système qui séduit.
Ah oui, le système de Necro, c'est pas glam, très punitif.
Entre les mecs qui ont la Madeleine de Proust et puis les mecs qui sont, on va dire, dans un type graphique, c'était pas dans la mouvance actuelle, quoi.
Ouais. Puis ça a pas très bien vieilli parce que finalement ils ont très peu réactualisé leur système. En fait, il est très fidèle à l'original.
Après, il est, pour moi, il est. Enfin, je veux pas dire réaliste. Enfin si, le mec se prend une bastos, il y a de grandes chances que le mec crève, quoi. Et du coup, c'est plutôt pas mal, quoi. Enfin.
Ouais, mais on reste toujours sur le système 1, je me tire dans le pied, 6, tout explose. Donc, c'est, ça ouais, reste en fait un système qui est assez ancien, qui est beaucoup moins fluide en fait que des choses plus récentes. Donc, avec beaucoup moins de dynamique. C'est-à-dire que par exemple, on parlait de War Machine, t'avais toute cette mécanique en fait de boost qui permettait en fait d'avoir un contrôle sur vraiment les actions que tu voulais, ce genre de choses. On retrouvait pas en fait.
Tu compares là deux éléments qui ont juste en comme très commun la figurine.
Mais pour le coup, tu vois, sur War Machine, ça les a desservis.
Tu n'as pas la même quête en fait quand tu joues à War Mash et
War Mash, ça les a desservis pour le coup parce que, enfin, en tout cas, moi, pour mon expérience personnelle, ça m'a un peu. À la fin, ça m'a un peu saoulé parce qu'en gros, il y a trop de trucs à connaître et en face, il faut que tu connaisses aussi le gars en face, quoi, ce que va faire la faction d'en face, quoi. Donc déjà, c'est long de prendre en main ta faction, surtout quand tu veux jouer des factions. Moi, j'ai joué Menoth, qui est franchement pas la faction la plus simple à jouer. Les Scorn au départ, c'était pas la faction la plus simple à jouer non plus. Mais juste parce que graphiquement, les deux armées me plaisaient beaucoup. Mm-hmm. Et au final, les Scorn, j'ai appris la dernière fois qu'ils avaient été Ré-EP, qui c'était super balèze maintenant.
Ouais, mais ça, c'est comme la météo, quoi.
C'est, voilà, ça change régulièrement.
Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que, par exemple, des systèmes assez comparables comme Blood Bowl, tu vas voir derrière, par exemple, la mécanique de relance qui va pouvoir te dire, ok, cette action-là, je veux pouvoir réussir, ouais. Tu vois, tu vas avoir un contrôle, en fait, qui est plus... Ouais. T'as plus d'influence en tant que joueur, c'est pas ok. Maintenant, tout repose dans les mains de mon mec, et derrière, tu peux vraiment dire ok, je vais allouer plus de ressources en quelque sorte parce que ça, j'ai vraiment envie que ça réussisse.
Ok, ouais, j'entends, ouais, pourquoi pas.
Non, c'est pas mal, ça marche bien, effectivement, les jeux comme ça, où t'as ce genre de choses. Je crois me souvenir que dans Confrontation, il y avait un peu ça, où finalement, t'as loué des dés en attaque et en défense.
Oui, non, tout à fait,
comme ça,
ouais, ou... sûr.
En confrontation, ouais.
Il y avait si j'avais pas joué à Confrontation.
Moi, c'est le mécanisme que j'aimais bien. L'idée de dire, je prévois à l'avance, attaque ça. Ou défense.
Moi, Confrontation.
Du coup, je rebondis.
J'ai un sale souvenir. Malgré cette mécanique-là qui paraît vertueuse,
C'était lourdingage à jouer.
Hein, j'ai souvenir d'une mêlée.
C'est ça,
de centre. On se fait tous des coups de boule au milieu. Et puis,
c'est pour ça que ça t'a convenu, en fait, Guillaume. C'est ça que t'as bien aimé.
T'es plus sur une
la mêlée avec les
coups, la mêlée avec les coups de boule au milieu, c'est ça en fait.
Ouais,
c'est juste ça en fait. Le mec t'a vendu le jeu, il t'a dit ok, tu vas te mettre des coups de boule au milieu.
De toute façon, mon coach m'a dit semaine prochaine en fait, tu joues troisième ligne au moins l'après-midi. Quoi. Donc là on est
dans l'esprit.
Après moi j'ai joué à la version 3.5 parce que je me suis mis quand même très tard par rapport à ça et j'ai pas forcément en fait ce ressenti là parce qu'on avait vraiment en fait une mécanique d'engagement, une mécanique justement de priorité stratégique où on allait déclencher un combat, qu'on essayait de gagner pour désengager en fait un mec qui allait retrouver un soutien et déclencher un combat. Il y avait vraiment en fait, même dans cette mêlée qui pourrait paraître bouillonne, il y avait vraiment en fait un moyen de dire ok, je fais mon action héroïque ici, ça me libère le gars qui va déclencher le combat. Il y avait moyen de reprendre en fait la priorité dans la mêlée. Donc même si de l'extérieur ça paraissait être un petit peu brouillon, pour y avoir joué pas mal en fait en tournoi, il y avait un vrai intérêt justement dans cette mêlée.
Ouais. De toute façon, la mêlée, tu vois, Warmash, ça ressemblait un peu à ça aussi.
Ouais, un petit peu, ouais.
Un petit peu moins, parce que du coup, il y avait des prises de flanc, etc. Mais
après, tout jeu, en fait, oui, ça dépend du scénario auquel tu vas jouer. C'est-à-dire que, par exemple, la confrontation, tu peux très bien, allez, on se la met tranquille, des coups dans la tronche. Et là, ça va faire peu d'intérêt. Par contre, quand on commence à avoir véritablement, moi, je me rappelle, en fait, des scénarios assez intéressants, où on devait, par exemple, aller piller des tombes desquelles pouvaient émerger, en fait, des spectres qui, derrière, allaient permettre, en fait, de récupérer du matériel qu'il fallait extraire, ben là du coup des profils qui étaient des fois plus atypiques, assez défensifs, plutôt mobiles, pouvaient justement aller collecter ces choses-là, se désengager des mêlées, essayer de ressortir pour véritablement gagner le scénario. Quoi. Et on retrouve du coup pas uniquement la confrontation pure, beaucoup plus intéressant, à bon sens.
D'ailleurs, parce qu'on parlait de Necromunda, ça c'est un des trucs qui a vraiment été souligné dans Necromunda et qui est vraiment sympa, c'est que leurs scénarios sont très cool.
Très
cool.
Carrément, ouais.
Alors on a dit plein de mal sur Necromunda, mais les scénarios sont bien, franchement. Bon, les figurines sont très sympas, il y a plein de choses bien dans
Necromunda. Ouais, les figurines...
On n'a pas été très content des textes qui ont été produits, mais en dehors de ça...
Pour le coup, là, les figurines, tu vois, Eric, la réutilisation des grappes, elle est excellente. Parce que je me suis pris la boîte des deux lacs, et une fois que j'ai collé mes deux lacs, je me suis dit, bon, qu'est-ce que... Et ben, avec tout ce qui m'est resté... j'ai fait des cultistes du chaos qui sont vachement atypiques.
Oui, ça, c'est clair.
Et t'as une réutilisation des grappes. Je me suis même demandé si j'avais pas acheté une boîte de bandes juste pour faire du kit bash, quoi. Tu vois, une bande de Goliath.
Ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens qui veulent quelque chose qui soit vraiment une thématique.
Ouais, ouais, carrément.
Que ce soit Garde Impériale, ou en tout cas Impérium dévoyé, quoi.
Ouais.
Clairement, une boîte de Necromunda, c'est un trésor qu'il faut vraiment exploiter.
Ouais. Pour un prix qui est pas super cher.
Pour un prix qui. Ouais. Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est que. Comme le jeu a marché de manière un peu avec un peu d'arythmie, on va dire, les boîtes, en fait, tu peux les toucher sur le marché, on va dire, neuf, souvent, discount. Moi, je suis pas sur toutes les conventions, mais dès que ça vend de la figouze, globalement, Necromunda, c'est, ouais, t'en veux deux, tiens, vas-y, je t'en fais le 3 pour le prix de 2.
J'ai un concept pour toi, je pense que... Dans les prochains podcasts, il faudrait faire le cours de la figurine, tu vois. Alors aujourd'hui, le Necromunda, on est à autant. Le set de base de games,
ça,
on
c'est
a...
un clin d'œil. Ça, c'est mon clin d'œil, mon côté saoudien.
Ouais, c'est ton côté très tunisien-saoudien. Ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire un concept comme ça, le cours du marché de la figurine.
Selon
Greg. Ouais, mais Greg, en fait, vous savez pas, mais il se paluche eBay et super régulièrement. Donc le mec, il est au courant de tous les prix des films.
Ouais, il y a des indicateurs qui sont hyper parlants. En
fait. Après, quand tu regardes le FAQ et tu regardes sur 40 000, je parle, ce qui est moins fort.
Ah mais moi, je
du
suis
coup, un... tu dis ah bah
je
cool.
Je suis un amoureux des nerfs et des dès que je vois le manuel du général, je tombe amoureux, mon compte en banque pleure hein, forcément. Je suis le mec qui fausse quoi tous les tournois. Donc voilà, c'est moi qui vous rachète vos figurines, les gars. Voilà, c'est moi.
Donc voilà, je voulais juste faire une petite aparté. On a eu une heure environ de vidéo de audio. On n'a pas vraiment beaucoup parlé des sorties de 40K et tout ça. C'est pas très grave parce que c'est tellement mainstream. Mais du coup, on a fait une heure pile de vidéo sur la
d'audio.
Oh là là, j'ai du mal. Hein.
Ouais, t'as
du mal. Donc.
Bah, t'aimes tellement qu'on voit ta gueule aussi.
Ouais, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, bah du coup, j'en profite. Sur cette super vidéo, allez voir cette super vidéo de présentation et de pub pour le Hammer Time. Le Hammer Time, c'est quoi? C'est un endroit où vous allez pouvoir jouer, peindre des figurines et rencontrer d'autres joueurs. Quelle date?
Le 8 juin, ça sera le off, donc sur réservation, on vous propose atelier de modélisme et tournoi. On est déjà complet sur le tournoi 40 000, il nous reste de la place sur Infinity et Mythic Battle Panthéon. Sur les deux tournois, mais on propose surtout à tout le monde de venir tester des jeux sur Reza, c'est le concept du off, et du lendemain, le 9 juin, ils boivent de la bière aussi, hein.
Ouais,
et le 9 juin, par contre, on est ouvert au public, et le concours, on va dire, interne du 9, on est ouvert au public, ça sera pour les meilleurs démonstrateurs, et surtout pour les plus belles tables, donc ça c'est vraiment le titre des figuristes, mais pas que, on aura aussi des plateaux. Et le but, ben, c'est de créer des passerelles entre les associations.
Ouais, c'est ça vraiment le but. Hein. Le but,
c'est réellement ça.
C'est de créer un tissu associatif vraiment. Et pas forcément que sur la métropole lilloise.
Non, parce qu'on a des gens qui viennent de plus loin. Bon, on a nos voisins belges, hein, qui vont être bien représentés. On a
les amis de l'Aisne également.
Les amis de l'Aisne aussi. Enfin, on a téléphoné à tous les potes. En mode médiéval, quoi. On a rameuté le banc et l'arrière-banc. Et puis ben, y a les mecs, ils ont tous répondu présent, et puis ben, là on en est à dire c'est compliqué, on a plus trop de place, donc on est en train de serrer un petit peu tout le monde, et puis ben, je pense qu'il y a des trucs qui sont pas de la démo, voilà, c'est pas encore officiel, mais je pense que les trucs qui ont pas leur place en tant que démonstration, ben, on va leur dire
goodbye.
Alors bon, on n'est pas les partenaires commerciaux, hein, voilà, les mecs qui sont là, ils sont là.
C'est un goodbye, tu fais
pas de démo. C'est les potes aussi, quoi. Voilà. Voilà. D'ailleurs, tous les partenaires commerciaux présents sur le Hammer Time font de la démonstration.
Ça, c'est
très
bien.
Aux ateliers.
Ouais, ça, c'est très, très bien.
D'accord. Ouais. Donc, tous les mecs ont joué le jeu, tous les mecs présents, voilà, qui font de la vente sur le Hammer, font de la démo. Donc, respect à eux. Hein. Merci à TGCM, Arcana de Valenciennes, Till Game. Voilà, My Scenery qui va venir faire de l'atelier, ok, et puis Alchemy avec Nicole Bon qui va nous faire un tournoi aussi dimanche. Alchemy.
J'ai failli commenter Alchemy dernièrement, il y avait quelqu'un qui cherchait justement des joueurs sur Toulouse, sur Facebook, sur Passion Modeling.
Ça va pas loin,
tout à fait à côté.
Ouais,
c'est pas tout à fait à côté, mais j'ai failli faire de la pub pour la Martin, je me suis dit, ouais, bon, quand même, le mec Toulouse.
Après, aujourd'hui, le prix des avions, enfin le prix de billets d'avion est pas super cher.
Et on a Axel qui nous a quitté pour aller dans cette région.
Ah oui, c'est vrai.
On peut faire un wagon et ramener plein de copains.
Et lui, puis, la bière est meilleure qu'ailleurs. Hein.
Ah ouais, ça pour le coup. Autant sur le vin, alors, pas trop compris, on est malin, d'accord, mais sur la bière.
C'est alors, ce qu'il faut préciser ouais, sur la Maritime. Il y a quand même.
On s'est quand même battu là-dessus.
Un restaurateur qui vient faire la bouffe.
Alors la bouffe, ouais. Ça sera, on fera pas de chaud, on fera du casse-dalle, mais par contre tout ce qu'on va mettre dedans, ça sera du produit du terroir.
Voilà.
Là, ça sera
ça, c'est important à le dire quand même. Ouais, ça sera parce que souvent, on est les parents pauvres de la bouffe, hein, nous les figurinistes, hobbyistes, gamers, peintres, les mecs qui font des conventions un peu geek. Souvent, sandwich triangle un peu merdique. Bon là, ça sera pas du sandwich triangle.
Non, là,
c'est de la bière super top qualité. Ah, et...
On fait de la cuvée des trolls, ce qui est un classique sur les conventions, mais c'est quand même de la cuvée. Donc voilà. On se débrouille pour que ce soit au meilleur prix et pas en canette. Donc, ça aussi,
on est dans le développement durable.
Ouais, développement durable, les coke-up. Hein, ouais, on est sur une première édition et on s'est quand même arraché pour être un maximum dans le cali, quoi. Là, faut être, dès qu'on s'est posé la question en disant, est-ce qu'on le fait? Ça coûte quand même un petit peu cher, mais c'est mieux. Ok, vas-y, on le fait. On risque. Allez, on verra.
Ouais.
Donc, on a poussé l'exercice jusqu'au bout, du bout, vraiment, Vulc. Hein.
Ouais,
toi qui as vu sur les cordons de la bourse, là.
Le but, c'était vraiment pas de faire du bénéf, donc, clairement, on a mis la top qualité, quoi.
Voilà, ouais. Donc, en gros, ce qu'on avait en trésorerie, même associative, on a fait tapis.
On a tout claqué.
On a fait tapis, on va faire la bamboula, et puis, on verra si on peut en faire une deuxième, quoi. Voilà, c'est tout ça.
On verra bien, ouais. Du coup, voilà, on a fait la petite aparté à Mortem, j'avais oublié de le placer au début de la vidéo. Je mettrai un commentaire sur le truc du podcast pour dire si vous voulez entendre parler du Hammer Time, c'est à une heure de vidéo.
Ça va faire beaucoup.
Je vais essayer de réduire un peu.
Les mecs qui font. Moi j'écoute des 3 horaires. Ils font 3 heures.
Ah ouais. Quand tu peins, du coup, c'est 3 heures, quoi.
Du coup, tu t'en fous.
Ouais,
honnêtement.
Ouais.
Moi, il y a déjà les podcasts, que ce soit les rediffs, Barbu, Dave, Serge. Que ce soit même le planétoire, enfin tout ce qui existe sur YouTube. Moi j'écoute tout, comme tu l'as dit, en tapant du B, globalement. Donc même les mecs qui sont sur YouTube, je vois pas leur tronche en fait.
Ouais. Donc t'écoutes. C'est ce que je fais aussi, hein. Moi j'écoute vraiment du podcast.
Donc non, 3 heures, moi ça me va.
Ouais.
Le métro c'est fait pour ça, les transports en commun.
On met sur pause, on revient plus
tard. Ouais, c'est d'accord.
Exactement.
J'ai pas de visibilité parce que moi, si vous voulez, les podcasts que j'écoute, je dérive un peu là sur les sujets, mais moi, en général, quand je peins, j'ai une plage horaire de 2 heures.
Un podcast, c'est quoi là?
J'écoute 45 minutes de podcast, moi, tu vois. Bon, j'écoute Europe 1 en podcast. Mais c'est des histoires.
C'est parce que t'as une thématique. Tu sais que c'est séquencé. Là, le mec, c'est comme s'il rentrait dans la pièce. C'est ça qu'on entend.
Ouais, c'est ça. Hein, c'est
comme s'il rentrait
dans
la pièce.
C'est le principe du cooking painting, quoi.
C'est, le mec, il rentre
dans la cuisine.
Le problème, c'est qu'il nous parle pas.
Ouais.
Il nous fait que nous entendre.
Ça, on verra plus tard pour faire
un peu direct, quoi. Mais
si vous nous écoutez, vous êtes un peu comme le fantôme dans la pièce.
Ouais, c'est ça.
On sait que vous êtes là, on peut pas vous voir.
Ils viendront nous parler au Hammer Time, c'est l'occasion.
Ah, il y a ça aussi, ouais.
Donc, alors, Donc là, on a fini sur les... Ouais, j'avais dit que j'allais parler un peu des nouveautés sur Infinity, que t'as pas vu du coup, Guillaume.
Ouais, moi, je suis pas le plus sérieux.
Hein, tu suis pas les nouveautés, j'ai juste vu, il y a deux motards kazakhs, du coup, de la faction Ariadna, mais version Ruskov. Donc, c'est des kazakhs, je sais pas quoi. Enfin, bref, c'est des genres de scouts. Ils ont une grosse moto qui me font vachement penser aux motos Cult Gen Sealer. Vraiment, sur la même idée de principe dans le concept, quoi. Après, bon, c'est du métal, hein, donc modifiable, etc.
C'est pas modifiable, mais il faut savoir que les dernières figurines Infinity, c'est un bonheur à assembler.
Ouais.
Il y a des détroqueurs.
Parce que ça, avant, c'était pas le cas. Hein.
Ouais, avant, c'était pas le cas. C'est clair que les premières éditions, on se galérait. Maintenant, en fait, il y a des détroqueurs énormes, voire même les figurines sont parfois en deux parties, mais par exemple, le tronc est carrément coupé en deux. Ce qui fait que tu assembles, en fait, avec une zone de collage qui se compte en centimètres carrés, quoi. Et ça, c'est du caviar, quoi.
C'est pas mal. Ouais.
Ça tombe nickel.
C'est ce qui est bien sur Games.
C'est un peu le même esprit que les découpes en fait que fait Games Workshop sur leur boîte, donc on a la même chose sur Infinity, et pour le métal c'est vraiment agréable.
Il y a Greg qui vient de s'intoxiquer avec de la colle
la colle spéciale maquette.
Ah, et puis vu les symboles qu'il y a dessus.
Attention, attention, c'est de la colle russe de Tchernobyl.
Il est radioactif.
Radioactif. Putain, Greg, t'as une corne qui te pousse en travers du nez.
Ça y est, c'est parti.
T'as un haricot magique dans le pif.
Je peux jouer.
Ouais, c'est
ça. Mais ça, t'as besoin d'une pote.
Ouais, ouais. En fait, les signaux d'avertissement sont plus gros que le plan.
C'est ça, faut faire gaffe parce que la figurine c'est dangereux. Moi, dernièrement, j'ai fait de l'aéro, etc. J'ai nettoyé mon aérographe avec de l'éther et tout. Enfin, le produit de nettoyage. Le produit de nettoyage Amomig. Bah, c'est le produit de nettoyage Amomig, c'est de l'éther, ça a l'odeur de l'éther. Et pas Serge de l'éther.
C'est un choix, c'est pour toi.
Tu pourras lui régler son compte.
Je te montrerai qui c'est.
Et donc, du coup, je me suis chopé la gerbe le lendemain. Hein, parce qu'avec tous les produits, je me suis intoxiqué en fait. Hein, parce que les peintures, j'ai un masque, mais je crois qu'il est un peu. Le filtre là, ça y est, il faut que je change. Donc, du coup, faites attention quand vous collez et tout ça. Si vous êtes en train de coller, peindre et tout ça à l'aéro quand vous nous écoutez.
Guillaume, il va me regarder avec des gros yeux, mais je persiste à dire que la peinture Amomig. Franchement, ça décoffre le sinus. C'est de la bonne cam. Ça obtient un résultat.
Ouais, c'est super, elle couvre super bien. Mais par contre, elle couvre super bien tes sinus aussi.
C'est une colle éphémérée.
Donc ouais, alors, les gens ne nous voient pas. Mais du coup, tu es en train de coller. Du coup, c'est super. On va faire un truc.
Qu'est-ce que vous faites?
Voilà, qu'est-ce que vous faites chacun? J'avais prévu de le faire ce soir. Moi, du coup, comme je suis, c'est mon premier podcast, j'ai un peu de mal à monter mes trucs. J'avais ramené, donc du coup, moi, je vais commencer par moi. J'ai ramené ma Battle Force Seraphon Starclaw Strikehost que je m'étais offert à Noël.
Et qui est toujours sur grappe.
Qui est toujours sur grappe parce que on a joué.
Je monte une armée AOS, que c'est je sens lui, puis quand il pleurera.
C'est ça, voilà, en fait il va jouer. Donc en fait, j'ai pris un commis, j'ai un commis ce soir qui est André, qui monte mes Seraphons. Je te préviens, s'il manque des pièces. Ça va aller mal pour toi, je suis chier. Donc il est en train de me monter des Reapers d'Actu.
Non, c'est pas du
c'est Games qui en a pas mis en fait. Non, mais c'était comme ça. Le Reaper d'Actu, il a pas de tête. C'est ça, il a une boule à la place de la tête. Bah, green stuff quoi, tranquille. Donc voilà, donc comme ça vous avez déjà. Greg, il est en train de monter du coup les
objectifs de Warhammer Age of Sigmar.
Voilà, donc c'est utilisé sur Shadespear ou quoi? Ou c'est les.
Bon, tu peux, hein.
Mais c'est le même délire que pour 40k où t'as les 6 objectifs et t'as le même type de partie sur Age of Sigmar ou ça marche comment?
Ouais, t'es pas sur la même chose. C'est pas le même séquençage, mais globalement tu restes aussi sur
6 objectifs.
Il y a des objets.
Ouais, il y a des objets.
Voilà.
Ça peut être parfois bien, bon, parfois.
Bah, c'est le truc que j'aime pas, moi.
Moi non plus, j'aime pas du tout, ça raconte.
Alors on va me dire, mais t'aimes pas et pourtant tu les montres. Mais je veux en faire quelque chose.
Oui, bah on peut en faire d'autres objectifs. Moi j'ai monté les objectifs 40k. Je les utilise régulièrement sur les parties, André il est là pour en témoigner. J'ai horreur du jeu en 6 objectifs avec les cartes. Y en a plein qui adorent ça, hein, mais je trouve que du coup, ouais, on est d'accord tous les deux là, pour le coup, Greg, sur le fait que ça raconte pas grand chose.
Ouais.
Tu peux le réutiliser à faire plein de trucs. Je sais que sur Inquisimunda, ça vous a pas mal servi, la table était super jolie. Il y a Masp qui avait réutilisé les objets, la caisse cryogénique, etc. Enfin, on est capable de faire des trucs vraiment sympas, quoi. Du coup, vas-y, Vulk, qu'est-ce que tu peins? Donc, toi, tu l'as dit au tout début.
Alors, moi, je l'ai dit au tout début, en fait. Donc, là, je suis en train de peindre ma sectorielle Onyx. Donc, en gros, c'est les grands méchants de l'armée combinée. Ah, c'est les méchants aliens qui débarquent. Donc, là, c'est les forces d'invasion. C'est-à-dire que c'est la première garde hein, qui arrive comme ça. Donc, c'est la méga élite. Et
alors, je vais vous expliquer pourquoi on rigole. On a du son et lumière. Il y a Greg qui est en train de faire un lance-flamme avec de la colle rebelle. Elle était bouchée. Il a débouché avec un briquet.
Ouais. En mode troll, quoi.
Ouais, voilà.
Ça marche.
Hein. Ouais, ça marche.
C'est pas toi qui te plaignais de mourir à cause des vapeurs.
Ouais, non, mais c'est là, ça. Allez.
On en revient aux olives.
Voilà. Alors, du coup, moi, je vais expliquer un peu ma philosophie. Alors, bon, j'ai pas beaucoup de temps, hein, j'ai un petit garçon qui me prend pas mal de temps et pas mal d'autres occupations à côté. Du coup, par contre, je ne joue qu'avec des choses peintes. C'est hors de question pour moi de venir, en fait, à un tournoi avec des choses qui ne sont pas peintes. Donc, ma philosophie, c'est je fais mes listes. Pardon ?
Denis Papin.
Denis Papin, ouais. Jean-Pierre, ouais.
Et à B1.
Et du coup, ça bloque, tu vois.
Mais ne vous coupez pas la
parole. Vas-y, allez, j'avais dit au début, ne vous coupez pas la parole.
Ne vous coupez pas la parole, je vais le faire pour vous. Merci, Lib, bravo. Exactement. Si vous n'êtes pas de la merde, je m'en occupe.
Donc tu joues en flupin.
Je joue en flupin, et donc là, le truc, c'est que je vais faire ma liste. Et après, je vais présenter les figurines que je vais jouer pour le tournoi en question. Et le but du jeu, c'est déjà que tout ait au moins de la couleur pour que ça ait un rendu. C'est-à-dire, je vais peut-être pas aller faire les éclaircissements de foufou, etc., mais je vais poser toutes mes bases, au moins, pour jouer comme ça. Et derrière, si j'ai le temps, ben je vais plus loin. Et le but, c'est d'avoir en fait le plus beau rendu global avec dans un temps imparti. Donc c'est pas le côté je dois avoir fini mes figurines en fait pour ça, c'est le côté j'ai tant de temps à allouer et en gros j'en fais le plus que je peux.
On est déjà sur un en tout cas de ce que j'ai vu, un bon niveau même pour du tabletop.
Ouais.
Voilà, je sais pas si on pourra mettre des photos de la soirée, etc. On avait peur, j'ai pas pris vraiment de photos. Ça serait sympa de prendre en photo ce que vous avez peint et de le remettre sur le parce que le podcast du coup j'ai vu avec Noskid qui est notre genre de webmaster de notre forum. Je pense qu'on fera un fil de discussion avec l'épisode du podcast et on pourrait mettre du coup ce que vous avez fait sur la soirée. Et du coup, ça serait intéressant de voir ce que toi tu dis. Ce que t'estimes être un tabletop.
Carrément. Bah en fait j'ai fait ultra efficace hein, parce que j'ai fait une base à l'aéro. Alors mes Onyx, on mettra peut-être des photos. Ils sont vraiment sur une base vert bleu en fait que j'ai dégradé avec des tip sheets d'aéro vraiment pour en jeter. Alors c'est vraiment pas compliqué hein, c'est vraiment tout simple. Mais de loin ça en jette.
Ça paye grave hein, moi tu me le montres là de loin, on est à quoi
Un mètre cinquante, ouais près, c'est ça.
C'est de toute façon la distance, bon, peut-être pas la distance à laquelle tu vois sur une table, mais en gros,
ouais, pas loin,
c'est
hein,
pas parce loin.
Que c'est, voilà, ouais. C'est... Et donc, voilà, le but c'est après de faire un peu les pots, les choses comme ça. J'ai surtout fait les socles en fait, donc j'ai fait les socles vraiment dans un mode désertique, un peu martien, qui tend vraiment vers le rouge quand même. Donc un fort contraste, bah, ça c'est vrai, c'est clairement les inspirations de Greg et des peintres d'armée ultra efficaces qui. Enfin. Nous encourage en fait à aller dans cette direction qui marche vraiment super bien quoi. Et bah d'ailleurs j'ai profité de vous avoir comme ça pour vous demander un petit conseil sur la peau en fait de mes chasses Vasti. Donc
c'est les extraterrestres,
c'est ça, c'est alors les chasses Vasti dans l'univers d'Infinity.
Vas-y.
C'est les saletés hein, c'est ouais. C'est les aliens en fait qui laissent un œuf, c'est-à-dire qu'ils meurent jamais vraiment, faut venir dératiser en fait à coup de lance-flamme ce qui reste, c'est
le lion ne s'associe pas avec le cafard.
Et donc là, c'est des noctifères, donc c'est des saloperies en fait, parce que grosso modo, Infinity, quand une figurine prend une balle, bah, elle tombe gentiment inconsciente. Et en gros, faut que le médecin voit si c'est sauvable ou si c'est pas sauvable. Eux, ils vont se battre jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que quand ils prennent une balle, bah, ils vont continuer à se battre jusqu'à la mort. Donc bon, s'ils en prennent une autre, ils passent à de patresse, ou s'ils passent un peu de temps dans cet état, ils y passent. Et donc, c'est vraiment des saletés, quoi. Il faut vraiment leur taper dur dedans pour qu'ils meurent.
Mais du coup, là pour le coup, c'est pas une peinture studio, c'est pas le schéma studio.
Ah, c'est pas utilisé. Du tout le schéma studio.
Ouais, parce que là, on est sur un bleu turquoise assez foncé, assez foncé à des endroits.
Ouais.
Plutôt une couleur un peu comme les Drucari pour 40 000, les versions studio, on va dire.
Ouais.
On est un peu sur ce truc-là.
Ouais.
Je suis sur les tuyaux en ce moment. Donc,
Moi,
je suis là pour vraiment trancher sur ta peau. J'aurais fait la même couleur que mes deux là, tu vois, de la blanc-bleu.
Ouais,
l'embleuté. C'est intéressant, c'est ce que t'as dans la main.
Oui, alors j'utilise la roue chromatique pour regarder. Alors, la roue chromatique, elle me dit quoi? On est sur du bleu vert, tu vois. La complémentaire, on est sur du rouge orange.
Ouais.
Avec un dégradé vers le marron.
Ouais.
Après, du marron là.
Ouais, il y a déjà le socle. Hein.
Et du coup, tu vas faire une redite avec le socle.
Ouais, et en sachant que les mains, du coup, vont être probablement de la même couleur, en fait.
Voilà, donc. Moi, j'aurais mis plutôt du blanc pour vraiment casser.
Ouais.
Et amener. Alors, ce qui est un peu bête, alors après Eric, je vais le laisser parler aussi.
Ouais, parce que Eric,
c'est
vraiment,
notre gros spécialiste peinture quand même autour de la table.
Ouais, Eric, c'est le mec qui peut passer en fait 3 heures à chercher une peinture pour sa texture. C'est-à-dire qu'il n'en est même pas à la couleur, lui, il est à un autre niveau.
Ouais, il est à un autre niveau, il est sur une autre planète. Mais là, du coup, si tu es sur du blanc bleuté, on est sur sur à peu près la même base et sur deux couleurs froides. Donc, est-ce qu'il faut pas faire après, moi, j'ai une tendance à jamais choisir des couleurs chaudes pour les peaux, sauf. Si j'ai fait quand j'avais fait mes Warzone, là j'avais fait un Afro-américain avec deux grosses Gatling là. Là voilà, c'est forcément sur des couleurs chaudes quoi. Mais là pour le coup, un extraterrestre, vas-y, je laisse la parole du coup à Eric.
Ouais, puis après, c'est quoi l'ordre?
Bah, l'idée, c'est, on est sur, donc une figurine qui est, tu vois, la couleur générale, c'est de la peau d'un extraterrestre méchant. Donc, en quelle couleur tu la ferais? Moi, j'ai dit blanc, bleuté.
Je mets les peaux que j'avais prévues dans la poche, et après,
ça peut être pas mal, ouais.
Moi, comme je vois un peu bleu vert, ce qui va contraster à fond, c'est le violet, mais c'est déjà ce que t'as dans l'arme.
Ouais, enfin, c'est un gris violacé qu'il y a dans l'arme, parce que derrière, l'arme est destinée à être plus éclaircie.
Après avoir fait le lance-flamme, on a Greg qui nous balance des bouts de plastique en mode Gatling, donc
Ouais, c'est le coup de pince en fait, je découpe de la barre.
Ça reste du violet, c'est juste qu'il est désaturé en fait.
Ouais, tout à fait, ouais.
Toi, t'es en vert, et donc t'as déjà été chercher le violet, du coup t'es obligé d'aller normalement quelque part vers l'orange.
Ouais.
Du rouge, non, tu dirais pas du rouge.
Bah écoute, moi je serais parti sur de l'orange, vraiment.
Sur de l'orange?
Alors après il faut.
C'était mon premier choix.
Ouais.
Un ocre.
Ouais. Alors là, tu vois, toi Eric, t'es plutôt parti sur du orange qui tire vers le rouge. Et ouais. Toi, du coup, du orange alors, qui tire
ça,
vers le rouge.
Alors, ça, c'est mon premier choix. Mais ce que j'ai dans la poche, c'est autre chose. Mais.
Il y a plusieurs choses à voir. Effectivement, si tu prends du orange, tu vas avoir une triade avec ton violet, ton vert et ton orange.
Ouais.
T'es sur une couleur froide tout autour. Tu prends du orange, tu vas ramener une couleur chaude, donc elle va contraster assez naturellement.
Mm-hmm.
Il faut savoir que tout ce qui est chaud a tendance à ressortir.
Mm-hmm.
C'est pour ça qu'on, par exemple, on éclaircit à l'ivoire et pas au blanc pur.
Mm-hmm.
C'est parce qu'en fait, l'ivoire est un peu plus chaud que le blanc. Et donc, comme c'est la tête et qu'elle est devant, moi j'irais plutôt chercher des couleurs chaudes. Donc, par exemple, un orange.
D'accord.
Remonter peut-être avec effectivement un peu d'ivoire parce que t'as pas même, enfin, ça dépend juste où tu veux aller avec, hein,
mm-hmm.
si tu veux éclaircir un peu. Et puis, si tu veux vraiment contrasté, tu peux faire tes ombrages de visage avec une couleur froide. Mmh. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on prend un rouge que ton rouge est chaud.
Mmh.
Le rouge est considéré comme une couleur chaude. Si tu rajoutes du bleu dedans, tu peux avoir des rouges qui deviennent froids. Tu peux être froid par exemple.
Mmh.
Tu peux avoir des raids profonds.
Ouais. Et toi, tu dis pour le coup ton rouge profond là.
C'est du deep red.
Deep red, ok. Le deep red, donc toi tu utilises du scale 75 au niveau des peintures. T'as un aéro toi, Eric?
Ouais.
Tu les mets dans l'aéro ces peintures là?
Ouais, mais alors j'utilise ce genre
le thinner spécifique à scale 75.
Et je l'utilise même quand je peins, parce qu'en fait avec de l'eau ça marche pas bien.
Ouais. Ah, tu disais tout à l'heure, ça donne un effet de merde quand tu mélanges la scale 75 avec.
Et même
donc, du coup, vas-y, ta surprise dans ta poche.
Alors, Guillaume, il est très discret, il a plein de choses intéressantes à dire. Alors, de quelle couleur tu verrais la peau en fait de.
Oh, la peau, moi je vois une espèce de. Je sais pas si c'est de la peau, moi je vois une espèce de casque, mais.
Bah, en fait, ils ont quand même des têtes assez étranges.
Plutôt un blanc violacé.
Un blanc violacé.
Ah, tu vois, moi je suis un peu de ton avis aussi.
On prend des arêtes très claires de la carte verte.
Mm-hmm.
C'est tout ce que j'avais dit.
C'est très bien, c'est très bien.
Mais blanc, c'est mon dernier. Tu vois, l'idée du blanc violacé, alors, si t'es vraiment. Il y a une bouche, ce mec là ou pas?
Ouais, il a une bouche qui est assez étrange, mais il a quand même une bouche.
Parce que tu vois, j'aurais fait une différenciation. J'aurais mis du blanc pour le fond de la peau,
mm-hmm.
mais sur les parties un peu genre comme si c'était ses lèvres, mm-hmm. du violet plus foncé, tu vois.
Ouais, mettre en valeur la gueule histoire de donner un air prédateur. Ouais.
Alors moi j'étais parti en fait sur un violet, c'est-à-dire que c'était vraiment en fait l'idée de partir sur un violet plutôt froid justement.
Tu vas rester froid comme la carte
du balanceur, mais dans son état actuel, ta figue là, parce que ça fait un quart d'heure qu'on en parle, si on la met pas sur le site dans son état actuel. La conversation va pas trouver d'intérêt. Par contre, il faut vraiment que je me démarque pour avoir un fond neutre.
C'est compliqué ça.
Mais pour un gris, hein.
Bah, je suis pas trop mal.
La table.
De toute façon, t'as un super téléphone de la mort qui tue.
De toute façon, le violet, ça va bien renforcer ce côté
vilain. Attention, parce que tu prends le micro, parce que ça va s'entendre.
C'est vraiment une pierre qui est très, mm-hmm. très chaleureuse et très amicale.
Alors, comment je pourrais
le type de violet?
Comment je pourrais le rendre plus chaud, Eric, le violet, si je pars en fait sur ça? Parce que j'avoue que c'est quand même une solution qui me séduit. Alors,
explique-nous comment tu utilises ta roue chromatique.
Si tu veux éclaircir une couleur, tu prends ta roue chromatique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tes couleurs les plus chaudes, en chaud, c'est cette espèce de jaune, et en froid, ça va être plutôt ce bleu.
D'accord.
Le vert, c'est un peu plus compliqué parce que c'est ni chaud ni froid, ça dépend de quel tu prends.
D'accord.
Si tu es plutôt par ici, si tu veux faire un éclaircissement. Ah, c'est un peu compliqué parce que tu es plutôt sur une couleur froide. Si tu veux éclaircir vers du froid, tu les arrêtes. Pas ce qu'il y a de mieux, il faudrait plutôt partir vers du chaud. Donc il faudrait plutôt partir dans ce sens-là. Rajouter une des couleurs qui est un peu plus loin.
D'accord.
Genre par exemple l'orange, du violet et un peu de blanc.
D'accord.
Pourquoi rajouter.
D'accord, attends. En gros, tu prends ta couleur. Donc j'explique sur ce que tu fais parce que tu es sur la roue chromatique. Tu prends le violet dans la roue chromatique. La roue chromatique, ça se trouve sur internet. Hein, c'est super simple.
Ouais, ça sert
ça se trouve vraiment facilement. Tu prends. Si tu veux faire un éclaircissement, là tu es en train de parler de ça.
Alors on est en train de partir sur un éclaircissement. Donc quand on éclaircit, comme c'est une arête qui va venir vers nous, on va aller chercher des couleurs plus chaudes. Que la couleur de base. En général, tes ombres seront plus froides. D'accord. Ce qui est plus froid est plus flou et lointain. Ce qui est plus chaud est plus agressif et plus proche.
D'accord.
Donc en fait, quand tu fais un éclaircissement, normalement, il faut aller chercher de la couleur chaude. Si tu rajoutes du blanc bêtement dans ton violet, juste du blanc, tu vas désaturer ton violet et tu vas atterrir sur
un rose. Quoi.
Bah, il est là en fait, hein. Il est vers le centre de ta roue chromatique. Ouais. Tu vas atterrir là-dessus. Alors ça peut être bien, hein. Ça peut être.
Moi c'est ce que je fais.
Moi ce qu'on m'a dit violet. Pour le blanc, c'est de ne jamais l'utiliser, sauf on va dire vraiment sur les points finaux. Alors on a un spécialiste pour ça qui est Kirou en fait, qui lui va même presque mettre le petit point de vernis brillant pour aller encore parce que le blanc lui suffit pas. Mais alors, je sais pas ce que tu en penses, Eric, mais moi on va toujours déconseiller en fait le blanc pur, sauf vraiment pour les derniers points.
Sachant que si vous voulez un bon tuto sur comment faire une palette et éclaircir, etc., il y a Francis Mini qui a fait un tuto là-dessus, je pense, où il prend sa palette humide et il vous explique, bah, voilà, vous prenez la couleur de base, vous mettez ça, vous rajoutez un peu, et comme ça vous avez votre palette graphique qui est sur votre palette. Et tu la réutilises et c'était pas mal fait. Mais là, du coup, ton explication de la roue chromatique, ça m'intéresse un peu plus, et donc du coup, tu prends la couleur à droite.
Tu vois, si je veux réchauffer ici, je veux venir vers des couleurs plus chaudes, plus claires.
Donc aller vers la droite. Est-ce qu'il y a une notion d'aller vers la droite ou gauche ?
Oui, je peux aller vers la gauche. Si je veux garder des arêtes froides.
Ouais, tu vas du coup vers la gauche.
Je vais aller vers la gauche. Alors, sachant que ce que je peux faire de pire, par exemple, si je suis ici, c'est de rajouter du jaune.
Ouais, donc alors si tu es sur violet, tu rajoutes du jaune.
Là, je rajoute du jaune, c'est vraiment violent, hein, pour le coup. Je pense que ça va faire un peu bizarre, progressivement. Quoi. Donc, tu prends.
Mais c'est complémentaire. Donc, tu vas la désaturer, non ? Si tu pars.
Non, tu vas carrément aller vers du noir. Mais c'est plutôt le vert.
Donc là, tu prends quand tu prends le rouge, c'est tu le mélanges avec le rouge.
Alors, je prends un peu de violet, je prends mon violet de base, je rajoute un peu de rouge dedans et je rajoute un peu de blanc dedans.
D'accord.
Le fait de rajouter du rouge va moins me désaturer la couleur que si j'avais mis que du blanc.
Quand tu dis désaturer, ça veut dire quoi ? Parce que moi, tu vois, par exemple,
c'est aller vers le gris.
Alors, désaturer, on le verra pas là, mais ça, c'est du bleu qui flash.
Ouais. Un bleu genre ultramarine.
Donc, ouais, ultramarine. Ça, c'est un bleu désaturé.
D'accord. C'est un bleu Space Wolf, ouais.
Voilà. Et donc, on se retrouve finalement, c'est la même. Alors, quand on parle de couleur, il faut différencier la teinte. C'est du bleu. C'est la même teinte, c'est du bleu.
Voilà, ouais.
C'est la même teinte.
Mais c'est pas la même saturation.
C'est pas la même saturation. Celle-là, on voit bien qu'il y a bien plus de gris dedans. Bon, c'est un peu comme le gris de Space Wolf,
ça.
Donc ça, c'est la saturation. Et après, il y a le troisième paramètre qui est le clair obscur, l'obscurité. Si je prends celui-là, par exemple.
Ah, c'est presque un bleu, mais c'est du.
Il est presque noir
foncé, quoi.
Et tout ça, c'est du bleu.
Ouais.
Et quand on regarde sur le cercle chromatique, tout ça. C'est du bleu. On est
ouais,
juste
mais
là.
Du coup,
on n'a pas bougé.
Ah ouais, d'accord, ok.
On est là.
Donc ça, en fait, sur la roue chromatique, le quartier où tu as ta couleur, plus tu t'éloignes du centre,
ça,
plus
c'est
tu la satures, c'est ça ?
Alors, ça, c'est la teinte. Plus tu es à l'extérieur, ça, c'est ta teinte pure, en fait.
Donc à l'extérieur de la roue chromatique, c'est ta teinte.
Voilà, et plus tu vas rajouter
du blanc
dedans.
Et puis tu la désatures.
Et tu désatures ta couleur.
Ok.
Tu en laisses.
Pardon, elle est là d'ailleurs ta teinte. Là, elle
ouais, c'est au milieu, c'est ta couleur de base. Et un cercle, cran en fait. Au-dessus.
Là, ils ont rajouté du noir.
En t'éloignant, tu rajoutes du noir. Et dedans.
Rajouter du noir, c'est comme rajouter du blanc, ça désature la couleur.
En vulgarisation, tu enlèves l'intensité ou tu rajoutes de l'intensité.
Ouais, c'est un peu comme un.
C'est vulgarisation de l'éteinte.
C'est un peu comme un volume sonore, quoi.
C'est. Ouais. Et en fait, quand tu fais tes choix de couleurs sur deux cercles, tu dis par exemple, je vais prendre un jaune, un vert et un violet, tac, tac, tac. Quand tu dis ça, tu dis, je prends le jaune, je prends la teinte jaune, je prends mon jaune avec toutes les déclinaisons.
Ouais, bah oui, avoir. C'est ce que je fais aussi, moi.
Donc, je peux avoir d'un côté de ma figurine un jeu super vif, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et puis, je peux avoir au niveau des pieds un brun, un jaune qui tourne presque un peu au vert, au brun, qui
fait ça pour kaki, pour les pieds,
par exemple. Ouais. Ou par exemple pour le bas qui peut être moins clair que le haut.
D'accord.
Pour avoir ce genre
parce d'essai. Que moi je tu vois la roue chromatique j'en suis seulement à je prends un choix de couleur là tu vois dernièrement j'ai fait mes Drukhari du coup je regardais le rouge moi je suis sur du rouge foncé donc vraiment du rouge très très foncé avec des arêtes éclaircies en orange et je me suis dit qu'est-ce que je vais avoir comme couleur complémentaire pour les yeux les trucs des armes etc. Je me suis dit bah du coup j'ai regardé la couleur complémentaire on est plutôt sur du vert turquoise je me suis dit bah les ou du bleu donc je me suis dit on va essayer de faire un jeu comme ça avec du vert pour les yeux des Drukhari tu vois ce qu'ils ont des casques etc. Par contre je me suis dit tu vois ceux qui ont des cheveux je vais utiliser du bleu très clair en mode Harlequin tu vois un peu dans ce délire là parce que bon ça me fait j'aime bien mais je sais pas si ça va rendre bien du coup sur du rouge tu vois.
En fait quand on veut une harmonie de couleurs souvent ce qu'on fait dans la figurine c'est qu'on fait des triades c'est à dire qu'on fait on va prendre un élément principal de ta figurine genre sa toge qui prend les trois quarts de sa figurine et on va choisir une couleur pour la toge sachant qu'on essaie de la choisir en fonction de la symbolique des couleurs c'est à dire que si tu prends du rouge alors c'est vachement bien parce que c'est exactement l'espèce marine du chaos pas loin. Si tu prends du rouge, chez les mecs super agressifs, ouais. C'est la vitesse, c'est la violence, c'est certains orques.
Le rouge, c'est même plus vite,
c'est les Blood Angels. Donc, quand tu choisis ta couleur principale, tu peux partir là-dessus en disant que ça va être ce type de figurine que je vais faire. Si tu vas faire un mage, par exemple, la plupart du temps, tu vas aller chercher un truc un peu spirituel, un
tout bleu.
Et c'est plutôt dans le bleu.
Les bleus, ouais.
Si tu cherches. Alors, le vert, c'est compliqué parce qu'il y a le vert chaud,
naturel. Froid.
Si tu cherches la nature ou le glauque, parce que les fissons glauques, c'est un vert aussi. Nurgle,
ouais, Nurgle ouais.
Vert. Les peintres studio de Games Workshop ils sont pas cons, ils ont pris leur symbolique des couleurs directement et ils se sont dit voilà, bing, ça c'est fait.
Par contre, il n'y a pas de figurine jaune tu vois, chez des Games.
Il y a les Imperial Fist.
Ouais.
Alors je connais pas le feu des Imperial Fist.
En
général, le jaune c'est plutôt la sagesse, le
calme. Ouais, mais c'est ça, les Imperial Fist c'est la sagesse,
c'est les cocus 40k.
C'est les cocus 40k.
Et les Bad Moons.
Les Bad Moons c'est les sages.
C'est la sagesse.
C'est la sagesse, l'orc.
Les Bad Moons c'est la sagesse. Quand tu montes une triade de couleurs,
l'air rentre beaucoup dedans.
Tu prends une couleur qui est celle que tu imagines pour la couleur principale de ta figurine, sachant que tu prends du rouge, mais tu peux rajouter un peu de violet dedans, tu n'es pas obligé de la prendre en sortie de peau. Et même au contraire, si tu veux faire des trucs piches, tu ne la prends pas en sortie de peau. Après, tu vas prendre un deuxième élément, qui est le deuxième truc que tu vois beaucoup sur ta figurine. Genre, en plus de sa toge, il a une carapace, par exemple. Et là, tu vas aller la chercher pas trop loin de ta première couleur. Alors pas trop loin, c'est dans les 30% à 32%.
Ouais, deux carrés,
carrés à côté.
Deux quartiers voilà. À côté.
Si quoi. Tu la prends trop à côté, t'as intérêt à bien peindre. Parce que tu risques
quand même rouge et violet,
super similaire et ça va être compliqué. De bien
je le ferai jamais, tu vois. Par exemple, rouge violet, je mettrai jamais. Tu vois là, les Drukhari en l'occurrence, j'ai choisi rouge foncé. Ouais, Oasis aussi pour moi. C'est pas mal. Si vous venez à la forge judique. Ouais, non, mais faites pas discretos. Maintenant, on est entre nous. Là, les gens, ils peignent, ils écoutent. De toute façon, je pense que la. Si au bout d'une heure, t'es encore là, franchement.
C'est que t'en as pas marre de nos gueules.
Mais je pense honnêtement. Après, vous me direz ce que vous en dites. Je le laisserai, je le couperai pas. Mais je couperai certainement le audio. Je vais couper la première partie où on parle des news, etc. Où on arrive à une heure de. Ça tombe bien parce qu'on arrive à une heure pile de audio. Et je vais garder l'audio là qu'on est en train de faire sur la roue chromatique, etc. Où on fera vraiment un aparté sur discussion sur la peinture, comment on peint, comment on choisit ses couleurs. Mm-hmm. Comment on choisit ses couleurs déjà, c'est pas mal là depuis tout à l'heure, on est dessus et c'est vraiment intéressant. Quoi.
Et regarde sur les triades, on disait qu'on prenait une couleur qui était à deux crans à l'extérieur. Il est bien évident que si je prends mon rouge, qui est une couleur plutôt chaude, sachant qu'on peut la rendre froide, qui est plutôt une couleur chaude. Et que je prends un violet, par exemple ici là, ou un mauve, j'ai quand même pas mal de contraste. Si je prends mon rouge là et que je vais vers l'orange, je sais pas comment tu le vois, mais un espèce d'orange jaunâtre, j'ai pas méga beaucoup de contraste.
Ouais.
Parce que d'un côté, j'ai une couleur chaude et une couleur froide, de l'autre côté, j'ai deux couleurs chaudes. Si je prends mes deux couleurs chaudes là, alors ça, je vais avoir une harmonie au sens où je vais avoir.
Non, mais du coup, tu vas avoir une figurine très plate en fait.
Alors, si tu peins bien, elle est pas forcément très plate, mais par contre, t'es quand même dans les mêmes tons. Alors ça peut être sympa, hein. Tu peux avoir un bédouin du désert avec je sais pas moi, un turban qui est couleur lin et puis une toge de soie qui est un peu plus jaune quoi, tu vois, ou un peu plus ocre. Ça peut marcher, mais si tu veux chercher du truc qui contraste, t'es baisé, il vaut mieux prendre
c'est sûr que je fais une aparté, mais c'est sûr que quand tu colles des tout petits trucs avec des doigts de troll, c'est compliqué quoi. J'ai le même problème, pourtant j'ai pas des doigts de troll, hein. Mais franchement, moi ça me pète les couilles le montage. C'est pas la partie que je préfère dans la figurine, donc du coup, ce soir j'ai pris un genre de commis là qui me fait mon montage, je suis très content.
C'est très bien, tu peux aller, qui est bon.
En plus, il va chercher les boissons et tout.
Le mec, sans déconner, lui.
En plus, il régale la boisson.
Faudrait qu'on lui offre sa cotise.
Ah, franchement, ouais.
Ouais, c'est clair. Mais sans déjeuner, il est étudiant et il nous paye à boire.
Ouais, c'est pas grave, c'est comme ça, il faut les exploiter. T'as pas compris encore.
Et honnêtement. Quand tu payes une tournée à la Florence pour 3 euros, je veux dire, s'il y a bien long, tu peux refaire le prince, c'est bien.
C'est vrai.
Sachez, chers amis, que si vous venez à la Forge,
André vous payera votre boisson.
Ouais, alors, non, pas forcément. Mais en tout cas, ça vous coûtera que 50 centimes de boire une grande canette de Oasis tropicale. Je fais de la pub pour Oasis tropicale. Ouais, mais vous pouvez très bien boire du Perrier, du Coca, n'importe quoi.
Avec les jours anniversaires,
même sur la route. Et donc dans ta triade, t'as la couleur en face en fait, qui est la dernière.
Ouais, donc les couleurs complémentaires.
Et celle-là, elle ne sert que pour des petits points, ouais. Des petits points lumineux, genre des yeux, des OSL, ouais. Des choses comme ça, voilà. Après, moi, ce que j'ai un peu plus de mal à faire, c'est qu'il y a tout le reste. Parce qu'en plus de sa toge et de son haut, et puis de ses yeux lumineux, il a 3 épées, 2 ceintures, 15 sacoches.
Qu'il faut bien différencier du coup.
Il faut arriver à différencier, alors là tu joues sur des contrastes de saturation ou de chaud froid parce que t'as des marrons qui sont chauds, des marrons qui sont froids, mais moi c'est là où je bute.
Ah, c'est là
où
j'arrive plus très bien. Déjà tu vois, t'es dans une autre dimension là depuis tout à l'heure, donc moi pour le coup bon, tu vois, la figurine historique c'est très simple, par exemple tu te poses pas de questions, tu choisis la couleur de base et de la musette et de machin, et donc du coup c'est assez simple. Par contre, ouais, c'est vrai que là, les Drucari, en l'occurrence, bon, j'ai fait pas mal de recherches sur le net pour trouver des exemples. C'est ce que je fais moi super régulièrement. Je cherche d'autres mecs qui ont fait des trucs bien mieux que moi. Et là, pour le coup, tu vois, je suis tombé sur du rouge très foncé, un casque blanc cassé, blanc ivoire, on va dire, avec des motifs turquoise, tu vois. Et donc c'est la cabale du Flayed Skull, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein? Oui, non, mais bon, je veux dire, si tu veux trouver des exemples de ce que ça donne. Bon, voilà. Après, voilà, oui, je suis retombé sur un schéma du studio Games, enfin un des schémas alternatifs. Ouais. Souvent, après, tu vois, le Nurgle, pour le coup, je l'ai pas fait vraiment studio, parce que je fais tout à l'aéro. Et là, je rejoins ce que disait Guillaume sur son truc. Ça te fait gagner un temps de dingue. Ouais, okay. Parce que, du coup, tu passes... Au début, moi, j'étais hyper réfractaire. Hein, je me suis décidé au bout d'un moment en me disant, bon, allez, hop, je craque. Pour 100 balles, je me suis acheté un aéro qui est pas ouf, mais qui fait grave l'affaire. C'est un aéro chinois, voilà, le truc classique que tu peux trouver sur Amazon ou n'importe quel site, eBay ou je sais pas quoi. Même chez Aerograph Discount, je crois, ils vendent aussi des trucs.
T'as un petit peu plus cher, mais c'est le même produit.
Ouais, voilà, c'est bon.
Par contre, t'attends pas de moi.
T'attends pas de moi, voilà, c'est ça. Donc avec le compresseur et tout ça, on peut s'en sortir pour 100 balles. Moi, c'est ce que j'avais payé. Et donc du coup, alors le gros problème de l'aéro, et c'est ce que vous entendez dans tous les tutos, c'est pas ça, c'est le bruit. C'est non, c'est plutôt la dilution de ta peinture. Ça, c'est vraiment un truc, c'est un secret de polichinelle. C'est un peu comme les mecs les moines qui brassent la bière et tout.
C'est ça.
Il y a un vrai truc sur la.
Mais c'est parce que
je l'ai compris ça. Ouais, voilà. Mais je l'ai compris ça dans mes notes.
Mais si, c'est super ça.
Si, c'est super ça. Au bout d'un moment, tu le fais au feeling, franchement. Moi, maintenant, je l'ai dilué au feeling. Moi, je fais toujours la même chose. Je le mets dans le godet et je me dis, bon, bah. Alors, là, c'est pas assez, quoi.
Je pense que beaucoup de gens ne savent pas, faut mettre le diluant d'abord.
Ouais, ça, par contre, je fais du temps. Ouais, parce que sinon, t'en crasses ton aiguille à la base. Et crois-moi, j'ai passé quelques soirs, je me suis dit, putain, j'ai plein de trucs à peindre, super. Ah merde, c'est au bout de 10 minutes.
Moi, je trouve que l'aérogramme, tu vois, vraiment, c'est un objet. Qui dépend réellement du pain. On est en train de tous se monter la tête avec ce truc en se disant
je prends le truc
et je faut faire comme ça. J'ai regardé, je crois que tout ce qui existe sur YouTube en français, sur, ouais, sur l'aéro, j'ai regardé Fabrice Crane, j'ai regardé une vidéo de débutant, moi je m'y suis essayé, je suis pas bon pour faire de la vidéo YouTube.
T'avais fait une vidéo, hein.
Ouais, j'ai fait une vidéo, qui était une mise en situation sur un décor Infinity, c'était une caisse en fait. L'intérêt pour moi c'était de pas avoir des volumes complexes à montrer. Le but c'était de dire, allez-y, lâchez-vous, regardez, en 10 minutes, j'ai réussi à torcher un élément de décor. Donc démarrez comme moi. Donc, j'ai jamais poursuivi le montage, ça prend
des fastidieux. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Hein.
Ça demande un cumul de compétences, ouais, que j'ai pas, et qui va me consommer trop d'énergie. Pour une restitution, en fait, qui existe déjà sur la toile.
Oui,
donc, ça a pas beaucoup d'intérêt.
Non.
Voilà. Sinon, bon voilà, me faire plaisir. Si peut-être que je le ferai. J'avais fait la première parce que les copains m'avaient dit, ouais, Greg, tu peins comme ça, ok, t'as une cadence de ouf, montre-nous. Alors plutôt que de montrer l'objet 10 fois à 10 potes, puis ben, je fais une vidéo, puis démerdez-vous. Bon, c'était l'idée de base, c'était ça. Bon, je reviens au propos initial qui était de dire, pour moi, l'aérographe, c'est comme le pinceau. C'est, on va tous développer des techniques qui nous sont propres.
Ouais, c'est vrai.
Très clairement.
Moi, je fais pas du tout de la même manière. Enfin, ah, ouais, en tout cas, de ce que je t'ai vu faire de l'aéro,
ah ben moi,
je sais pas comment tu fais toi, Guillaume, mais je...
Non, moi, je fais pas ultra bourrin.
Moi, je suis un peu bourrin.
Il est assez proche de moi. Enfin, après, moi, j'ai évolué, j'en ai fait beaucoup.
Maintenant, moi, j'arrive à faire des trucs un peu plus chiadés, où je me prends la tête, où je fais des lignes, mais...
J'arrive également à faire des choses, mais j'y vais vraiment franco, quoi.
Ah, moi aussi, hein, pour le coup, tu vois, parce que mon propos de base, c'était mes Nurgle, comment je peins, tu vois, vous les avez vus, l'armure de base verte. J'ai choisi une modulation qui est avec des figurines, des peintures mixées Amomig et AK. Uniforme russe, donc c'est du. Le AK, c'est un vert un peu militaire. Où je pose ma base comme ça, je fais un assombrissement qui est le vert de chez Valero par le dessous. Comme ça, je me casse pas la tête à vraiment viser en fait. Je fais vraiment par le dessous et après, je fais mes éclaircissements et je pousse à fond et le côté hyper magique. Que je,
ça,
moi je trouve super magique,
qui est bien.
T'as un côté très magique et moi à la fin je mets le super encre de chez Games, l'Antonian Camo Shade. Quand tu fais du vert, c'est genre c'est magique quoi. Ouais, tu le poses,
c'est le maquillage attrape couillon, mais ça marche super bien.
Ça marche super bien. C'est-à-dire, t'as fini tes couleurs de base à l'aéro, tu poses ça. Ça masque tout, ça fait un... Bon, en plus, sur Nurgle, ça donne un côté un peu dégueulasse.
Faut le travailler quand même un peu, tu dois quand même le guider en lui-même.
Après, tu peux aller chercher des trucs plus fins avec de l'encre violette et tout quand tu fais des pots. Moi, je bosse énormément avec les encres. Ouais. Je fais énormément encre, plus éclaircissement par la suite sur les arêtes, etc. Il y a eu un moment, je faisais un peu du travail dans le frais, mais ça demande... une maîtrise quand même...
Ça consomme du temps.
Ça consomme beaucoup de temps. Donc, quand tu veux peindre des armées...
C'est une ressource. Hein.
Peindre des armées... Je l'ai fait quand je faisais mon War Machine. J'ai fait de la peinture dans le frais. Ouais. Ça va vite aussi. Hein. Tu gagnes du temps quand même parfois. Hein.
Bah, c'est ce que tu cherches comme effet. c'est qu'est-ce que je cherche comme effet? Qu'est-ce que je vais consacrer comme temps à la figurine?
Ouais, c'est ça.
À quoi elle va me servir? Tout ça, c'est des questions que tu peux te poser. Quand tu es sur autre chose que du piéton individuel que tu veux mettre dans une vitrine ou sur lequel tu veux tester une thématique. Moi, j'avais fait à une époque, quand je voulais vraiment monter en gamme, mon niveau de technicité, je faisais un petit peu des exercices chromatiques. Enfin, je dis, ok, allez, je monte mon niveau de rouge jusque où je peux y aller. Je tente vraiment la saturation. Je tapais un démon, puis je montais, tu vois. Je tapais du noir jusqu'au blanc, puis j'essayais d'avoir un maximum de couches entre eux. Ça, c'est des exercices. Bon, tu prends plaisir ou tu prends pas plaisir. Voilà. Le but, in fine, c'était juste la peinture. Ça démarrait par la peinture et ça s'arrêtait à la peinture.
Mmh.
Aujourd'hui, je suis plus dans ces moments.
Toi, tu veux jouer, quoi, aujourd'hui.
Moi, je veux jouer. Donc, l'aérographe,
jouer full pain, quoi.
Mais l'aérographe, c'est une mitraillette à jouer
full
pain.
Ouais, c'est clair.
C'est ça, l'aérographe.
Et même quand t'as pas, pour le coup, tu vois, sur mon armée de Death Guard, quand t'as pas réellement terminé ta figurine, au final, quand j'ai posé tous mes couleurs de base et que j'ai mis mon encre, au final, je peux les poser sur une table, ça jure pas vraiment quoi. Il y a des petits détails à terminer, etc., mais ça reste quand même visuellement, ça va, agréable quoi. C'est pas. Et donc, du coup, c'est vrai que ça te permet d'aller assez vite. Alors, après, je suis pas super fan de. Je sais que sur YouTube, tu peux trouver des mecs qui peignent et qui font 3 coups d'aéro, waouh! J'aime pas du tout, hein. Il y a quand même des moments où l'aéro. les mecs utilisent pour aller vite, justement.
Tout faire. Enfin,
il faut se casser un peu le rendu aéro.
C'est ce que ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Je suis un peu dans ce délire-là. Hein. Bah,
et les autres, c'est bien pour casser l'aéro.
Ouais, ouais.
Bah, après, il y a ce que j'aime bien moi, dans la technique de Fabrice Tran, c'est la reprise. C'est la reprise des contre-jours au voile noir. Bon, après, il touche le mec, voilà, quoi. C'est Jimi Hendrix de l'aéro. Quand il veut sniper un truc, il te fait ça avec une facilité déconcertante. Toi, voilà,
ouais, c'est compliqué pour toi.
Le doigté qu'il a sur un aérographe, parce que l'air de rien, il y a quand même un toucher.
Ouais, il faut.
Gérer le débit. Il faut se le dire. Le, voilà, quand vous avez un double action, comme le colis, une double action, dans un doigt, vous faites deux gestes, quoi. Un doigt, deux gestes. Ouais, c'est pas deux doigts.
Tu me parles, là, quand tu me dis un doigt, deux gestes.
Ah ouais, tu vois, vous jouez tous les experts du point G, mais on est là-dessus, en fait. Là, il faut vraiment appuyer au bon endroit.
C'est pour ça que je suis très
bon,
fort, en
au
fait.
Au bon endroit. Ouais, tu peux t'améliorer.
Ah, ouais. C'est ce qu'elles disent toutes
celles qui peuvent nous avouer.
Tu peux t'améliorer.
C'est pas son point G que je touche.
Ne pose pas la question.
Ne pose pas la question, ça va dérailler. tu as vu que tu en fiches tes figurines là chez Citadel. Bon, bref. Alors le.
Il fait une drôle de tête du coup.
Bon. Vous avez pu régler sur l'aéro. Alors je sais pas ce que vous avez dans l'aéro, mais on peut régler la profondeur du gâchette.
Oui. Tout à fait. Ouais.
Ça, je sais pas comment on fait. Moi, il y a niqué là. Ça y est, c'est le deuxième que je nique.
Bon. 100 euros à Hiroshima.
Non, ça coûte 20 euros.
Ça coûtait le compresseur, les 100 euros.
Les 100 euros, ça y est. Non, mais en fait, si tu veux, là, j'en ai acheté un sur Amazon. Et en fait, il y a une vis qui permet de limiter le débit en sortie par le dessous.
Oui.
Et donc, du coup, il y a
toutes ne l'ont pas.
Un joint de.
Tous les paquets.
Ouais, voilà. L'ancien que j'avais n'était pas comme ça. Et du coup, ouais, le joint qui est dessus, c'est pas top. Et du coup, voilà. Mais bon, on va pas discuter là. Du coup, je vais terminer parce que là, on arrive à 1h45 de vidéo. Donc, du coup, 45 minutes
de
vidéo. Ah, putain, j'ai vraiment du mal.
Et tu veux mettre quoi? Tu veux mettre des photos de toi?
Non, pas du tout. Je vais juste mettre un logo. Je pense que je vais mettre un logo avec un pinceau et une fourchette pour dire cooking painting. Et là, je vais juste mettre pause, laisser finir la vidéo. J'allais dire encore l'audio tranquillement. Et après refaire un autre audio avec les gens qui ont fait oui, Saga. Comme ça, je vais pouvoir aussi monter quelques trucs quand même, que je sois pas venu pour rien. Et comme ça, on va pouvoir reparler tranquille, faire plein de bruit, péter, roter tranquille. Question.
La chatte.
Ah, chatte. T'avais envie de le placer ton truc. Hein. Bon, allez, à plus sur Forge FM.
Allez où?
Forge FM.
Je crois toujours la couper.